Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 14h. Très belle équipe autour de la table aujourd'hui. Tout d'abord, on a récupéré Daniel Riolo. C'est malheureux. Non, nous on est contents, Daniel.
C'est vrai que c'est la loose.
L'équipe de France nous l'a laissé, quoi, finalement.
J'ai bien compris votre message.
Nous sommes très heureux de vous retrouver.
Si depuis mardi soir vous cherchez une explication à la déroute des Bleus.
Je crois que j'ai regardé le match, hein, je l'ai.
Moi j'en ai une autre.
Ah, bon.
Vous savez que parfois le football est irrationnel.
Oui.
L'explication est à ma gauche. Vous voyez la dame en blanc? La dame en blanc est un corbeau. Vous savez ce que c'est? Les gens qui, il y a un mois, ne savaient même pas que le ballon était rond.
Oui.
Le football leur était étranger. Et au moment de la demi-finale, ils se réveillent. J'ai reçu une rafale de messages. Allez les bleus! Allez les bleus! Allez la France! Je me suis dit, ça sent la guigne.
Voilà.
La guigne, elle est là.
C'est la faute des footix.
C'est pas vrai, ma mère me dit.
Un mois que j'ai pas de nouvelles d'elle, rafale de messages, allez les bleus.
C'est pas vrai. Ma mère me dit
bizarre,
que je suis en bonheur, mais là, ça n'a pas marché.
Bah, n'envoyez plus de message, Yael. Je vais vous dire. Voilà. Yael Mélu, l'ancienne avocate, est donc avec nous. Bonjour Yael.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Très belle entrée en matière. Nous avons également le journaliste et libraire Jean-Philippe Doux. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Estelle. Bonjour.
Et puis à ma droite, comme chaque jour, Martin Bourdin. Ça va Martin?
Ça va très bien, salut à tous.
Alors on parle de foot dans un instant pour le plus grand plaisir de Yael. Zidane favori pour prendre la tête des Bleus. Est-ce que ça vous fait rêver? C'est la question qu'on vous pose et vous pouvez y répondre bien sûr au 32-16. On va se demander également si vous seriez prêt à faire une pause avec les réseaux sociaux pendant les vacances. Pause nécessaire. On utilise de plus en plus les réseaux sociaux. Et puis faire un break dans son couple pour raviver la flamme cet été. Bonne ou mauvaise idée? Est-ce que c'est bien de faire un break? Là je vois déjà Daniel Riolo qui est très circonspect. Nous en parlerons à 13h30.
RMC Estelle Midi.
Oui, il fait. Midi 7 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'arrivée imminente du jour et c'est celle de Zinedine Zidane à la tête des Bleus selon une info RMC Sport. L'ancien capitaine de l'équipe de France pourrait succéder à Didier Deschamps jeudi ou vendredi prochain. Martin, cette arrivée fait-elle plaisir aux Français après 14 ans d'ère Deschamps?
C'est en tout cas leur très grand favori aux Français. 56% d'entre eux souhaitent que ZZ succède à Dédé dans les prochains jours, très très largement devant Thierry Henry ou Hervé Renard également cité. 56%, c'est beaucoup, mais c'est aussi beaucoup moins qu'en mars où 84% des Français souhaitaient voir Zidane à la tête des Bleus.
Mais c'est peu, hein,
l'ancien. Ouais, ça m'a un peu surpris. Je pensais que ça allait être beaucoup plus que ça. En tout cas, l'ancien numéro 10 de la France n'a plus entraîné depuis la fin de la saison 2020-2021. Oui. Donc ça fait 5 ans. Jusque-là, il n'a connu qu'un seul club comme entraîneur, le Real Madrid, où il a quand même brillé. Je vous le rappelle, 3 Ligues des Champions de suite entre 2016 et 2018. Là, il va mettre un petit peu les pieds en terre inconnue. Le poste de sélectionneur, Zidane ne connaît pas. Deschamps non plus, vous me direz, lorsqu'il est arrivé à la tête des Bleus, il ne connaissait pas ce poste. Ça ne l'a pas empêché de remettre la France sur la carte du foot mondial. Un titre de champion du monde en 2018, une finale de Coupe du Monde en 2022, une troisième demi-finale de suite également il y a quelques jours, mais aussi une finale d'Euro en 2016. Le contrat de Zidane, lui, est prêt d'après RMC Sport. Pas encore signé, mais prêt. Il gagnerait 300 000 euros par mois hors prime et serait accompagné d'un staff élargi pour faire encore mieux que son ancien coéquipier en bleu.
Et un staff féminisé, a priori,
aussi.
Surtout au niveau des datas. Alors, Zidane à la tête des Bleus, est-ce que ça vous fait rêver? Daniel Riolo, je vais continuer à vous faire mijoter. Pendant ce temps, je vais demander l'avis avisé. Yael Mélul.
Foutixé. Bon, on va pas se mentir, c'est pas un sujet qui me passionne.
Vous connaissez Zidane quand même?
Oui, bien sûr. Ah, je l'adore. Déjà, je l'aime beaucoup. Il est très sympathique.
C'est pas ce qu'on lui demande.
À ce point-là.
Ah oui. Bah oui, il est sympa. C'est une icône.
Ouais, alors c'est pas ce que je dirais.
Sympa, on
c'est
sait pas
le premier mot qui vient.
Très peu de gens lui parlent.
Son image, très bonne image. Il est hyper aimé des Français. Non, bon, manifestement, un peu moins. Parce que j'ai vu 56%, c'est quand même pas des masses.
Je
pensais vraiment que ça allait exploser.
Moi aussi, je pensais que c'était 95.
Ouais, mais c'est peut-être après la défaite catastrophique des Bleus.
C'est un sondage qui date d'avant la Coupe du Monde.
C'était juste avant,
quand tu regardais pas le foot.
Je pense que c'est encore moins maintenant. J'ai d'autres rêves dans la vie que Zidane, capitaine de l'équipe de France. Mais ça peut.
Non, pas capitaine.
Entraîneur.
Il a déjà été capitaine.
capitaine. Voilà, un entraîneur. Ouais, bref, on se comprend, quoi.
Sélectionneur.
On est en train de se noyer, là. Préviens quand même les auditeurs et les téléspectateurs.
Est-ce que vous voulez que je donne la parole à quelqu'un d'autre, Yael?
Tu ne veux pas me recruter à...
Non. Si, mais justement, j'étais en train d'y penser. Je vais envoyer un message à Gilbert tout de suite.
Je vais passer la parole à quelqu'un qui s'y connaît.
Ah, Jean-Philippe.
Alors, Jean-Philippe.
Enfin. Alors, moi, oui, évidemment, j'ai envie de l'essayer, mais je pense que c'est le fait qu'il y ait de moins en moins de Français qui en aient envie, c'est que on se souvient de lui en 98, notamment au niveau français. C'était il y a très longtemps, en fait. Et il a 54 ans.
Il a entraîné depuis, quand même.
Oui, il a entraîné au Real. Mais pour les Français style Yael, voilà, c'est-à-dire pour les Français qui suivent le foot une fois tous les deux ans avec l'Euro et la Coupe du Monde, c'était en 98, c'était il y a 28 ans. L'autre chose aussi, c'est que son rapport avec ses joueurs, c'est la base de son style d'entraîneur, et Daniel pourra peut-être me le confirmer. Et là, en fait, il va se retrouver avec des joueurs qui, en 98, n'étaient pas nés, pour la plupart. Et moi, je l'ai vécu, ce syndrome, avec Laurent Blanc. J'étais avec lui en 2008 au Girondins de Bordeaux, et je voyais, en 2008, les joueurs qui le regardaient avec des yeux brillants, parce que, ils étaient de cette génération qui avait rêvé avec Laurent Blanc en 98. Et je l'ai vu quelques années plus tard au PSG, avec des joueurs pour qui Laurent Blanc, il y avait des plus internationaux, donc il le voyait un peu de loin. Il n'y avait pas cette aura dont Laurent Blanc avait bénéficié au Girondins de Bordeaux pour être champion de France à l'époque, parce que les joueurs étaient vraiment, c'était des apôtres de Laurent Blanc. Là, je pense que les joueurs de l'équipe de France sont peut-être un peu trop jeunes. 98, ça leur dit quelque chose. Ils ont surtout le Real Madrid.
Mais les mômes aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle YouTube. Ils ont tous regardé les meilleurs moments de Zidane lors de France-Brésil 2006.
Oui, mais ils n'ont pas la même fanatique.
Excuse-moi, tu penses sérieusement qu'il y a des joueurs qui savent pas qui
est Del Rio?
Non, mais qui savent qui il est, oui.
Et
mais
qui savent qu'il était comme joueur. Tu sais qu'il y a pas que YouTube, il y a les jeux vidéo où il est dans les, ouais, il est en légende.
Ouais, tu peux jouer tout à FIFA avec Zidane.
L'icône a tellement été entretenue que tout le monde sait qui c'est.
L'équipe de France qui
il y a même pas de discussion possible.
L'équipe de France qui dispute la Coupe du Monde des États-Unis, il y a 10 joueurs qui étaient nés qui étaient déjà nés en 98. En certains sont nés en 97, donc pas sûr qu'ils aient des grands souvenirs de France-Brésil le 2 juillet.
Si tant est qu'il faille savoir qui était la légende pour de toute façon être entraîné. Non, excuse-moi, mais ton argument tient pas la route.
Mais alors, est-ce que Daniel Riolo, ça commence bien. Est-ce que c'est le meilleur candidat possible?
En fait, c'est même pas savoir si c'est le meilleur ou quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Deschamps a été, parce que sélectionneur de l'équipe de France, c'est bien d'avoir une référence au passé. Deschamps était un entraîneur qui avait joué et brillé sous le maillot bleu. À partir du moment où il était devenu entraîneur et que en club, il avait déjà vécu des expériences et des expériences intéressantes et réussies, il y avait une forme de logique à le mettre sur le banc de l'équipe de France. Zidane, derrière, quand vous avez un entraîneur qui est resté 14 ans, un mandat très long, beaucoup trop long. C'est très long, il y a très peu de sélectionneurs qui restent aussi longtemps à la tête des Bleus. Deschamps s'est accroché beaucoup trop, il aurait déjà dû partir après l'Euro raté 2021. Bon, il a voulu rester parce que à l'époque avec Noël Le Graët, ils ont fait le président de la Fédé, ils ont fait leur petite tambouille pour rester. Il fallait changer parce qu'à un moment faut changer, c'est juste pour avoir un visage neuf, une nouvelle aventure, partir sur de nouvelles bases. Bon, mais qui d'autre? À partir du moment où Zidane est un entraîneur,
ouais, mais il a refusé. 5 ans. Effectivement, en 2021, il venait juste de quitter Zidane, le Real, c'était formidable.
Zidane a
ça fait 5 ans.
Zidane n'a pas repris de club parce qu'il voulait ce poste-là. Ouais. Quand une icône comme Zidane, qui a été un joueur extraordinaire, qui a été un entraîneur en réussite, veut le poste en équipe de France, mais en fait, Zidane, il est plus important que le président de la 3F. C'est pas une élection présidentielle, c'est pas les Français qui décident.
Vous savez qui est le président de la Fédération Française de
Pas du tout.
Voilà. Donc, c'est pas une élection présidentielle. On a beau balancer tous les sondages qu'on veut, on s'en fout. Les sondages, ils indiquaient que la majorité des Français ne voulait plus de Deschamps, et Deschamps est quand même resté. Donc, le président de la Fédé décide de qui est le sélectionneur. Mais le président de la 3F en ce moment, qui est un homme
et
Philippe Diallo, qui est très compétent et dont je soutiens l'action, les Français ne le connaissent pas. Zidane est plus important que lui.
Mais
donc
oui.
Philippe Diallo, à la limite, il a pas le choix. À partir du moment où Zidane veut le poste, Diallo, il a pas le choix. Il nomme Zidane et basta, en fait. Alors, et oui, on veut une nouvelle aventure, et si la question c'est rêver, rêver, je sais pas. Déjà, il va falloir comment il va construire.
Enfin, c'est assez excitant,
le rêve, il viendra après. Oui, c'est excitant. C'est excitant parce que avoir.
Moi, j'ai envie de voir Zidane. Franchement, j'ai envie de le voir.
Oui, c'est l'image.
Mais c'est comme quand Maradona a pris l'équipe d'Argentine. Les Argentins étaient ravis de voir une icône à la tête de la sélection. Et c'est comme quand Platini est devenu entraîneur de l'équipe de France.
Enfin, ça n'a pas marché. J'allais en parler.
Ouais.
Les grands joueurs ne deviennent pas forcément des grands sélectionneurs.
Et Laurent Blanc en équipe de France.
Bah, Laurent Blanc, pareil, c'était également un joueur très important
de l'histoire. Mais ça t'excitait moins que là, Zidane. Bah, oui. Zidane, non, mais, t'as envie, en vrai.
De toute façon, il n'y a pas un tampon de réussite obligatoire.
Bon, ce serait mieux quand même, excusez-moi.
Bien sûr, bah, mais ça ne veut pas dire que forcément ça va marcher. Oui. Exactement comme quand Platini l'est devenu, Deschamps l'est devenu, Blanc, on a toujours eu des vieilles gloires à la tête. Mm. Enfin, peut-être sauf une fois, mais on a toujours eu des vieilles gloires à la tête.
Tu parles d'Hidalgo.
Évidemment.
Lui-même ne l'avait pas vu venir.
Daniel s'est fait autant sur... Il s'est fait
Hidalgo,
surprendre.
Hidalgo a un très beau palmarès de joueur.
Bah, oui, mais j'en connais d'autres qui ont été champions de France.
Le maire. Et Roger Le Maire.
Oui, en fait, c'était plutôt Roger Le Maire qu'on disait.
Oui, bien sûr.
Je
ne
sais pas pourquoi vous vous sentez tout de suite.
Ah oui, je ne sais pas du tout. Mais vraiment.
Moi, je pensais vraiment à Roger Le Maire. Mais comme Jean-Philippe m'a fait rire, je n'ai pas pu.
Il n'avait pas non plus un gros palmarès.
Il avait été entraîneur quand même.
Oui, non,
mais
bien
il avait
sûr.
Été entraîneur à Bordeaux,
ah bah oui,
avec succès
d'accord.
quand même. Voilà.
Grégoire est avec nous de Tourcoing. Grégoire, il est commercial. Bonjour Grégoire.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe.
Merci d'être avec nous. Grégoire, est-ce que ça vous fait rêver? Ou est-ce qu'à minima, au moins, ça vous excite l'arrivée de Zidane à la tête de l'équipe de France?
Bah, moi, je suis vraiment ravi que cette légende prenne les commandes de l'équipe de France. Moi, Zidane, c'est toute ma jeunesse. En plus, il a réussi en tant qu'entraîneur. Hein. Il vient pas simplement en tant qu'icône. Il a entraîné au Real Madrid. Il a réussi au Real Madrid. Ça fait presque 6 ans qu'il attend le poste. Je pense que tout est préparé, tout est ficelé pour qu'il puisse réussir en équipe de France. Il l'a dans la tête depuis tant d'années. Donc, ça va ramener un vent de fraîcheur à l'équipe de France. Et c'est pas pour faire offense à Didier Deschamps. Moi, je remercie Didier Deschamps pour son parcours. Avec Didier Deschamps, on était assuré d'être quasiment tout le temps dans le dernier carré des tournois majeurs avec l'équipe de France. Et voilà, moi, c'est pas parce qu'on a perdu contre l'Espagne avant-hier qu'il faut cracher dans la soupe. On a réalisé malgré tout un beau parcours. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Daniel Riolo parce que c'est un des seuls spécialistes sportifs et footballistiques plutôt qui s'est excusé après une espèce d'enflammade collective. Et c'est le seul qui a eu l'honnêteté de s'excuser. Bravo Daniel et vivement que Zidane prenne les commandes de l'équipe de France.
Ah bah écoutez, merci beaucoup. Grégoire. Merci Grégoire pour ce message. On a Farouk également de Montreuil, il est conducteur de train. Bonjour Farouk.
Bonjour Estelle, bonjour à toute l'équipe, bonjour à Daniel.
Alors Farouk, vous vouliez réagir sur cette arrivée imminente, hein, la semaine prochaine, certainement jeudi ou vendredi, de Zidane à la tête de l'équipe de France. Est-ce qu'il peut faire mieux que Deschamps, Zidane à la tête de l'équipe de France? C'est quand même un challenge pas facile là.
Ben moi, je pense que Zizou, en tout cas, je l'espère, il fera mieux en termes de jeu, en termes de virtuosité, en termes d'émotion, en termes de technique. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a les joueurs. Zidane a été entraîneur du Real de Madrid en tant que supporter du Real. Moi, j'ai rêvé, j'ai kiffé quand il est un entraîneur, notamment face au Barça où on les a battus régulièrement face au Barça avec ce jeu de passe. Zidane, c'était ce grand joueur. Pour moi, c'est le plus grand joueur du monde. Il jouait en smoking quand il était sur le terrain. Non, Zizou, il a la classe. Je crois qu'il est plus important que le président de la République. Il a tout pour réussir.
D'accord, ouais, je vous sens emballé quand même, Farouk. Là.
Il faut être emballé. Il faut, surtout dans les moments comme ça, avec la défaite, avec ce qui se passe dans le pays, on se dit, tiens, peut-être qu'on va, avec l'arrivée de Zizou, redémarrer, retrouver une identité de jeu, parce qu'il y a ça aussi. Je trouve que l'équipe de France n'a pas d'identité de jeu. Après, je voudrais juste dire merci à Didier Deschamps. C'est une passe qui se tourne. Maintenant, j'espère qu'on va avoir de la magie. C'est ce qu'on demande. Quand on aime le football, qu'est-ce qu'on veut voir? C'est du jeu, c'est des actions, c'est des buts, c'est des émotions. Après, bien évidemment, ça veut pas dire qu'on va gagner des titres, mais on veut voir aussi des émotions, on veut voir du football. Et c'est ce qui nous a manqué, je pense, avec Didier Deschamps. Il manquait un peu de magie, quand même.
Bah écoutez, merci beaucoup, Farouk, en tout cas, d'avoir été avec nous.
Les inédits.
On est en train de le rappeler. Martin, ça donne quoi sur le WhatsApp?
On a eu beaucoup d'optimisme et d'attente au 32-16. C'est un peu plus mitigé sur le WhatsApp RMC au 06-12-424-424. Jean, par exemple, pour Zidane, entraîner l'équipe de France. J'ai un peu peur, nous dit Jean. Je suis vraiment fan de Zidane depuis 1998. Ce sera difficile pour lui de faire mieux ou même autant que Didier Deschamps. Ce sera un gros challenge. Et puis on a Clément qui nous dit, c'est peut-être le seul mec que les gars vont respecter, que s'il met Mbappé sur le banc ou le remplace, personne ne râlera de par la stature du garçon.
Oui, et il sait gérer les stars aussi, parce qu'au Real, il avait quand même Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, et il savait gérer justement les égos de ces stars.
Deschamps n'a eu aucun problème à gérer l'équipe de France.
Eh ben non, mais justement, c'était aussi, moi je trouve, quelque chose qu'il a vraiment réussi, Deschamps.
Bah, un peu en 2021, c'était un peu compliqué quand
après,
même.
Après, il y a eu aussi Griezmann, bon, il y a eu le petit. Mais justement, Deschamps, je trouve qu'il a bien su faire ça, et tout le monde ne sait pas faire, et Zizou saura le faire.
Oui, bien sûr.
Et quand même, Daniel, est-ce qu'on n'est pas en train, là, vous êtes autoflagellé, on va dire, il y a trois jours, en disant que vous aviez cédé à l'enflammade collective en fait lors de cette Coupe du Monde. Est-ce que là on n'est pas en train de faire un peu la même chose sur Zidane? Encore une fois, Zidane, il a eu des super résultats avec le Real Madrid, la Ligue des Champions.
Moi justement, Estelle, je suis en train de te dire le contraire. Je suis en train de dire que de toute façon, à partir du moment où la page de Deschamps se tourne, il faut ouvrir une nouvelle page pour les Bleus. Et qui mieux que Zidane, ex-gloire du football français? D'ailleurs, même pas ex, il est toussé toujours une gloire du football français, et qui est devenu entraîneur et qui a envie du poste. Donnons-lui le poste. Ça signifie pas que il va réussir. Ça signifie pas que il va avoir un meilleur palmarès que Deschamps. C'est juste que, bah, comme Jean-Philippe le disait tout à l'heure, Blanc a occupé ce poste. Platini, des gens qui n'avaient pas eu de carrière comme Gérard Rouillet, comme Raymond Domenech, comme Roger Lemaire, Aimé Jacquet, lui avait été un entraîneur. Voilà, on a un peu panaché tous les modèles à la tête de l'équipe de France. Soit les parcours fédéraux, soit les parcours anciens joueurs. Il est logique de donner le poste à Zidane. Ça ne garantit rien. Il n'y a pas d'enflammade. Qu'il y ait un espoir, mais l'espoir, c'est normal. On avait de l'espoir avec Deschamps. On a toujours eu de l'espoir avec n'importe quelle personne. Même dans un club, quand un nouvel entraîneur arrive, de toute façon, on rentre dans une nouvelle période d'espoir. Le supporter de foot, il a toujours envie que ça gagne. Là, c'est différent. C'est toute la France. On passe d'une poignée de gens, enfin d'une poignée 1 ou 2 millions, à quand c'est les Bleus qui jouent, c'était quoi mardi soir? 20 millions. Bon, voilà, les Français ont envie de s'emballer, ont envie de cet engouement, de cette liesse populaire. Bah, souhaitons que Zidane.
Mais tu vas dans le sens des footix que tu dénonces. Parce que
pourquoi
tu dénonces les footix d'un côté, et en même temps, tous les footix veulent Zidane, en fait.
Mais les sondages dont on a parlé tout à l'heure. Zidane, il a.
Sur les sondages dont on a parlé tout à l'heure, je vous ai donné les chiffres sur la population globale, mais parmi les amateurs de foot, les pourcentages sont encore plus nombreux pour ceux qui veulent voir Zidane à la tête de l'équipe.
Aujourd'hui, si à n'importe quel autre entraîneur et Zidane, donne-moi la moitié d'une autre solution à part Zidane aujourd'hui.
Un nom.
En français, on veut un français.
Non, on nous a proposé Sagnol sur le WhatsApp.
Mais Sagnol, c'est pas mieux que Zidane.
J'aime beaucoup Willy.
On l'adore.
Qu'aujourd'hui, si on a, à partir du moment où Zidane est devenu entraîneur, n'a pas pris de club parce qu'il voulait ce poste.
Bien sûr,
tu crois sérieusement qu'on peut donner le poste à quelqu'un d'autre?
Non, mais il n'y a personne.
Puis alors,
pour lui, ce serait un cadeau empoisonné pour l'autre personne.
Alors, exactement.
Et puis là, il est frais.
Le président de la fédération ne pourrait pas prendre le risque de donner le poste à quelqu'un d'autre.
Exactement.
Il se décrédibiliserait.
Alors, on a quand même trouvé, parmi ce torrent d'amour, un auditeur un peu plus mitigé. C'est Kevin de Perpignan. Bonjour, Kevin.
Bonjour tout le monde.
Alors, bonjour. Kevin, vous êtes un peu à contre-courant, là. C'est-à-dire que vous, c'est pas un rêve que Zidane prenne la tête des Bleus.
Tu sais, par contre, c'est pas trop ce que ça va donner non plus. Enfin, c'est le côté où, certes, il y a 3 Ligues des Champions, mais après, est-ce que l'équipe au Real de Madrid, il hérite de l'équipe d'Ancelotti avec des sacrés noms, quand même, qui étaient en place à l'époque? Est-ce que le jeu Zidane, est-ce qu'il y a vraiment une patte Zidane sur cette équipe du Real de Madrid? Je suis pas sûr. Et puis il y a aussi le côté où l'histoire était tellement belle, c'est une icône. Est-ce qu'on a envie de penser à l'échec et de le voir échouer en équipe de France?
Bah non, mais on a envie de voir échouer personne. Hein.
Dans ces cas-là, vous voulez faire quoi? Vous le mettez dans un placard et on n'y touche plus?
Dans un musée.
Il a envie d'aller mettre les mains dans le cambouis, vous n'allez pas l'empêcher. On mettrait qui si c'était pas lui?
Qui, je ne sais pas, mais on a déjà envie de le voir sur une autre équipe, déjà faire autre chose que le Real de Madrid, où à chaque fois c'était quand même l'équipe de Carlo Ancelotti quand il est arrivé.
Oui, on hérite toujours de l'équipe de quelqu'un d'autre, hein, Kevin. Ouais. Et au Real, a priori, vous n'héritez jamais d'une équipe de peintre.
Et là, il va hériter de l'équipe, probablement que la grande majorité des joueurs auront joué cette Coupe du Monde.
Sinon, il y a Thierry Henry, qui a fait les Jeux Olympiques.
Mais il n'a pas très bien marché.
Thierry Henry, il a fait les JO, il n'est pas candidat.
Il a marché candidat sur les JO, mais pour le coup, il a été entraîneur adjoint de la Belgique.
Henri, il a probablement un destin. S'il veut redevenir entraîneur, ce qui n'est pas fait, parce qu'il s'épanouit dans son rôle de consultant. Si un jour il reprend un banc, il sera le candidat post-Zidane. Très probablement,
Attends. Vous aviez un nom à nous suggérer, Kevin, sinon?
Pierre-Henri, c'est un très beau nom. Ouais. Même à Monaco, j'étais satisfait de son passage. Il est arrivé.
Ah oui, j'avais oublié Monaco.
Mais, et en quoi, Thierry Henry, vous auriez pas peur qu'il se brûle exactement comme vous avez peur pour Zidane? C'est la même chose. Lui aussi, c'est un joueur important.
Ouais, mais il n'y a pas ce statut d'icône.
Quand même.
C'est ce dieu qui risque de tomber, Zidane. C'est
bah, en même temps, vous vous inquiétez pas pour lui. Je pense que c'est lui qui doit mesurer les risques, pas vous.
Ouais. Mais enfin, on a envie que ça marche quand même.
Bah oui, mais est-ce que Maradona a abîmé son statut quand il a pris l'Argentine et que ça s'est pas forcément tout le temps bien passé?
Son statut était déjà un peu abîmé par deux trois affaires quand même.
En Argentine, je peux te garantir qu'il n'y avait rien d'abîmé. En Argentine, il n'y avait rien d'abîmé.
Oui, mais bien sûr. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas la même image que Zidane, qui a une image extrêmement.
Maradona n'a jamais rien abîmé. Tout le monde continue de considérer que c'est, après Messi, désormais, le plus grand joueur de l'histoire. Et en Argentine, personne ne lui en veut de sa demi-réussite avec la sélection.
Merci Kevin, en tout cas, d'avoir été avec nous. Bah, on souhaite en tout cas que ça marche pour Zidane à la tête des Bleus. Signature selon RMC, jeudi ou vendredi prochain. Alors justement, tiens, est-ce que ça fait rêver Zidane à la tête des Bleus, Martin?
Bon, on vous a posé la question sur le compte X de RMC. Vous répondez non à 55%.
Ah bon?
Alors, c'est assez serré, mais c'est le nom qui l'emporte.
C'est faux ça, ouais. Bah écoutez,
émission de rabat-joie.
Mais il y a plusieurs messages qui expliquent un peu ça, et c'est un peu ce que disait Kevin. On veut que Zidane garde un peu cette image immaculée, quoi. Voilà, on a peur qu'il se plante et qu'on finisse par lui cracher dessus. Il y a Julien qui nous dit en France, on nomme, on adule et on brûle.
Défaitisme. Alors, il y a Mélu là. Je sais pas, j'ai pas parlé depuis trop longtemps, donc je voulais dire quelque chose. Voilà.
Bah, vraiment,
c'était nécessaire.
Vous avez bien fait avancer le débat. Mais je vous donnerai la parole.
C'est vrai que les réactions sont absolument incompréhensibles.
Bah oui. Ouais. Je vous donnerai la parole en premier.
Yael, sur pays bizarre.
Le prochain débat, nous allons parler réseaux sociaux. Seriez-vous capable de faire une pause pendant les vacances? On en parle avec vous dans un instant, 32-16.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi et demi, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. Très bonne ambiance, hein, sur ce plateau, on s'amuse beaucoup depuis midi avec Martin Bourdin, Jean-Philippe Doux, Yael Mellul et Daniel Riolo. Et on va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. Selon Médiamétrie, 68% des Français consultent chaque jour les réseaux sociaux TikTok, Instagram ou Twitter. Ces applications représentent, écoutez bien, 40% de notre temps de navigation quotidien sur notre téléphone. Un chiffre absolument énorme qui ne cesse d'augmenter. Martin, ça représente quoi en nombre d'heures de temps perdu, faut bien le dire?
Plusieurs heures par jour. Généralement, on passe 4 heures par jour en moyenne devant nos écrans, d'après l'ARCEP. Donc si on prend un peu les proportions dont a parlé Estelle, ça ferait un peu plus d'une heure et demie en moyenne chaque jour sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus chez les plus jeunes. Les 18-24 ans passent par exemple en moyenne 5h21 face à un écran chaque jour. Donc en rapport aux réseaux sociaux, c'est évidemment important. On a conscience, c'est beaucoup trop. 59% de ceux qui vont sur Instagram, Facebook, Snapchat estiment y passer trop de temps. L'idée d'une pause numérique fait donc son chemin en France. 64% des Français se disent prêts à tenter l'expérience. Et c'est peut-être parce qu'ils lisent... Bah, c'est ça le problème. C'est peut-être parce que s'ils lisent les témoignages de ceux qui l'ont fait, un Français sur cinq l'a déjà tenté. Généralement, c'est quelques jours, un ou deux jours, plus rarement une semaine. Et ceux qui l'ont tenté, en tout cas, ne l'ont pas regretté. 82% évoquent une amélioration de leur qualité de vie. 70% ont vu leur sommeil s'améliorer. Et 60% ont des relations sociales enrichies d'après une étude Ipsos pour une école d'ingénieurs.
Alors, seriez-vous prêt à faire une pause réseaux sociaux pendant les vacances, Yael Mellul?
Alors, une toute petite pause. Hein. Ouais. Moi, je suis vraiment...
La nuit, quoi.
Voilà, c'est ça, quand je dors, en fait. Non, je vais un petit peu moins regarder Twitter, parce que moi, c'est ça. Moi, je suis hyper accro à X, parce que je veux connaître de l'actualité, en fait.
Bah, vous pouvez voir le journal aussi. Je peux allumer la télé et écouter la radio.
L'actualité, c'est X pour toi?
Bon, pas mal, ouais. Ouais. Ah, j'essaye d'aller...
Ça s'explique à présent.
Ça dépend qui te suit. Hein. Tu peux suivre des médias.
Oui, tu peux suivre. Oui, voilà.
Bah, ça dépend, absolument.
Mon avis, je ne suis pas les médias traditionnels.
Bah, voilà, j'ai envie d'avoir d'autres sources d'informations. Mmh. Et après, je
c'est
me fais...
C'est que la terre est ronde, quand même.
C'est ça, voilà, mon process, en fait. Donc, c'est très compliqué pour moi. Je suis vraiment addict. Je suis vraiment addict à ça. Et j'ai besoin d'être au courant quasiment immédiatement de ce qui se passe.
Mais vous passez combien d'heures sur Twitter par jour?
Je sais pas, je ne regarde pas, je refuse de regarder.
Vous allez dans vos paramètres et vous voyez votre temps d'écran quotidien.
J'ai peur de regarder.
Elle a peur de prendre la claque de la durée.
Moi, ça tombe chaque lundi matin et je peux te dire que j'ai plusieurs heures.
Et celle qui connaît les psys, celui qui vient souvent, Carola.
Ouais, je sais.
Laurent Carilla, ouais.
Il peut te soigner de tout, là.
Mais j'ai pas envie d'être soigné de ça. En fait.
Ah oui,
ouais.
Ah bon? Ah
bah... Non, Mais c'est vrai que là, parce qu'aussi on n'a pas les émissions pendant un certain temps, mais parce qu'on a besoin d'être au courant de ce qui se passe.
Moi aussi, je dis que c'est parce que je travaille. Mais je suis quand même à 6h30, donc si tu veux, il y a un moment où, bon, il n'y a pas que le travail.
Je vais lever le pied un petit peu.
Prends une appli avec les journaux et tout, tu vois, pour s'informer, c'est bien.
Mais j'ai ça aussi. Ah oui, je fais les deux. Donc, mais c'est pas
simplement par rapport à moi.
Je suis très bien informée, ouais, j'aime bien. Mais parce que j'aime bien, en fait. Mais j'ai regardé beaucoup de séries aussi cet été, je vais en profiter.
Sur X et les séries?
Non, pas sur X, sur les
médias. Tu parles de X et tu nous parles des séries, quel rapport?
Taisez-vous.
Des séries X. On a pas de rapport. Ou alors on a mal compris de quoi tu parlais quand tu parlais de X.
Jean-Philippe, vous êtes du genre à faire des vacances déconnectées.
Bah, j'y arrive. En fait, je me rends compte. Là, je me surprends, en fait. C'est vraiment par surprise. Je me rends compte que pendant 24 heures, j'y suis pas allé, j'ai rien posté. En fait, quand je travaille.
Bah, vous postez toujours l'arrivée de votre train, normalement.
Ah oui, c'est quand je viens vous voir, évidemment.
Ah oui,
quand
je repars. Le train est en retard.
Non, justement, je fais tout l'inverse. Je prends conscience des TGV qui arrivent à l'heure. Ça me fait du bien.
Et
ça fait du
bien. Il dit mon TGV est arrivé à l'heure. En fait, on s'en fout, en vrai.
Oui, c'est sur 10 et il le raconte.
Et voilà. Et à chaque fois, chaque jour.
Voilà.
Et d'ailleurs, quand il poste pas, on est très inquiet.
C'est qu'il est en
retard. Original.
Non mais ça, en fait ça sert de caisse de résonance. Nous qui travaillons dans les médias, c'est une caisse de résonance. Les gens me disent ah tiens, j'ai entendu ce que t'as dit sur SL Midi. Souvent c'est via mes réseaux sociaux pour ceux qui ne nous écoutent pas en direct. Et donc je m'en sers professionnellement, mais ça en effet c'est une fausse excuse. Le reste du temps c'est soit pour aller voir ce que font mes amis, soit pour raconter ma vie qui n'intéresse peut-être pas tout le monde. Et parfois
si,
là dernièrement je me suis rendu compte que parfois en effet pendant 24 heures ou 48 heures je ne poste pas, je ne vais pas voir et ça fait vraiment du bien. Après, sur les chiffres des enfants, évidemment, moi, je le vois avec mes ados. Alors, mes ados, et c'est de plus en plus les réseaux sociaux. Avant, c'était beaucoup les jeux, mais c'est de plus en plus les réseaux sociaux. Et moi, qui ai une librairie, je le vois aussi. C'est que ça nous prend vraiment du temps sur nos loisirs, et notamment la lecture. Et, mais pas que. En fait, maintenant, on peut plus faire la queue dans une caisse de supermarché sans regarder les réseaux sociaux. Alors qu'avant, on était là, on attendait, on regardait ce que les autres avaient acheté. Enfin, on faisait n'importe quoi. Mais maintenant, en fait, dès qu'on a un petit moment.
C'est vrai.
Notre imaginaire, avant on allait dans notre imaginaire, on allait dans nos réflexions, maintenant on va sur les réseaux sociaux. C'est ces moments-là, ou alors dans les transports évidemment, quand je viens ici et que je prends le métro, mais c'est hallucinant en fait.
Mais ça se trouve les gens lisent le journal sur leur téléphone.
Ouais, alors bah du coup je regarde un peu au-dessus de leur épaule et ils scrollent en fait.
Hein. Oui.
Bah moi aussi je regarde évidemment. Tout le monde c'est ça. Bah, sauf ceux qui prennent pas le métro comme Daniel. Si tu...
Parce que,
on en moi je prends le métro tous les jours, oui. Bah oui, je prends le métro.
Tu prends le métro pour venir de là où t'habites, mais il n'y a pas le métro.
Pardon? Je prends la 8.
Prends en métro.
Excusez-moi, je passe mon temps à Ballard, sur la ligne 8.
Mais la 8, elle va pas chez toi.
Mais la 8, elle va au boulot, en fait. Donc, bien sûr. Dès que j'ai un rendez-vous à Paris, je prends le métro, Daniel.
T'as vendu ta voiture?
Dès que j'ai un rendez-vous. Enfin, c'est pas le sujet.
C'est un petit peu quand même.
Mais évidemment, je prends le métro.
Les gens qui nous écoutent ont quand même droit de savoir.
Excusez-moi, je prends le métro. D'ailleurs, la ligne 8 n'est pas climatisée, mais enfin, bon, ça, c'est un autre débat. Bon, alors, Daniel.
Tout à l'heure, on fera un sujet sur les voitures électriques où Estelle dira qu'elle vient tous les jours en voiture électrique.
Pourquoi t'as acheté une plus belle voiture pour pas l'utiliser?
Mais après, je viens au boulot avec la voiture, mais après, je repars en métro. Bon, en fait, on s'en fout. Excusez-moi, mais on s'en fout.
Tu prends le métro peut-être?
Bien sûr que
non. Moi non.
Voilà.
Bon, non, est-ce qu'on peut revenir, excusez-moi.
Oui, pardon.
Est-ce qu'on peut revenir à notre débat, qui était un débat sur les réseaux sociaux?
Il le faudrait.
Sociaux. Daniel.
Il le faudrait,
vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. On ne voit que vous.
Ah, pas tant que ça. Non, je tweete pas
les réseaux. On voit ta tête partout depuis deux jours. Non, mais, là,
ça crée le buzz à chaque fois.
Non, que tu vois ma tête, oui, mais que moi, je tweete pas tant que ça.
Ah, c'est vrai.
J'ai beaucoup ralenti, je le fais de moins en moins, ça m'intéresse de moins en moins.
Vous avez ralenti, mais pourquoi?
Bon, alors, si la question c'est faut faire une pause, oui, je pense qu'il faut faire une pause, mais pour tout, mais pas. En fait, j'ai une sorte de résignation par rapport à ça. Je crois que c'est cuit, que nous encore, on est la génération, on a connu le monde sans, mais tous ceux qui arrivent, les jeunes de l'âge de nos enfants, ils ne vivent qu'avec ça, et on a inventé un nouvel être humain. L'être humain des réseaux, qui va raisonner par rapport à ça, qui aura des avis qui seront conditionnés par rapport à ça. Et même moi, je vais te dire, je suis très inquiet parce que tu rappelais tout à l'heure quand on a fait le débat foot, que j'avais dit mardi soir, oui, on a cédé à l'engouement et tout. Mais la vérité, si je dois me regarder dans une glace, c'est aussi un truc de réseaux sociaux. C'est une forme de conditionnement qu'on mesure pas assez. Si t'es dans un algo, les messages que tu reçois finissent par te fracasser la tête sans que tu t'en rendes compte. Les gens sont pas lucides, en fait, par rapport à ça. Les gens ne sont pas lucides. Mais moi, c'est quelque chose auquel je fais attention depuis longtemps parce que j'ai été pris dans cette machine à laver. Parce qu'à une époque, ça m'a fait du mal. Maintenant, je m'en suis libéré à tel point que je suis plutôt en guerre Et d'ailleurs, ça me vaut beaucoup de désagréments parce que je réponds même violemment à ceux qui m'agressent, ce qu'il ne faut pas faire, mais je suis entré dans une espèce de combat par rapport à ça. Par exemple, Yael, j'en suis sûr, fait partie des gens qui ne sont pas lucides de la façon dont ça pénètre leur cerveau. Mais je sais parce que j'en ai plein autour de moi dans les émissions qui en fait ne se rendent pas
compte. Pour une non, demeurée en fait.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ne le prends pas mal. Je ne vais pas parler de toi.
Je comprends ce qu'il dit.
En fait, on ne se rend pas compte.
Ça nous enlève notre capacité de
Absolument. Absolument. Mais si. Mais c'est parce que tu ne t'en rends pas compte.
Tu ne t'en rends pas compte. Absolument. Écoute. Je garde ma capacité de discernement.
Alors, écoute.
Je prends ça vraiment comme une.
Alors, je vais t'enlever du raisonnement et je vais te dire que toi, tu es au-dessus et que tu arrives à t'en libérer.
Non, je suis pas au-dessus. J'essaie.
Je vois trop autour de moi, dans les rédactions, même dans les patrons de rédaction, on détermine énormément des sujets et des réflexions par rapport au réseau. C'est gravissime. Et c'est de pire en pire. Et on a beau mener toutes les réflexions de la Terre qu'on veut autour de ce sujet, dire que c'est grave, et toutes les études désormais scientifiques nous indiquent que c'est en train de fracasser la tête des ados, ça, des jeunes adultes.
C'est autre chose. Mais ça, c'est le ça pouvoir oriente. Des médias, alors, justement. C'est autre chose. Alors, ce que regarde, tu pointes du doigt, et c'est très important.
Oui, mais Yael, regarde, par exemple, moi je l'ai dit souvent ici, je suis assez favorable à une dose de capitalisation sur les retraites. Je n'ai, sur Twitter, que des économistes qui parlent de capitalisation dans les retraites. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui existe et que en fait, c'est la solution à tous nos maux.
Tu ne te rends pas compte de la puissance des algos.
Et en fait, en vrai, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça te rentre dans le crâne. Oui. Parce qu'en fait, ton algorithme ne te donne que ça. Oui. Donc en fait, tu ne vois même plus qu'il y a d'autres solutions. C'est encore une fois,
mais c'est
un tout petit exemple.
Mais c'est à toi d'aller la chercher. C'est à toi d'aller.
Oui, mais sauf qu'en fait, t'es abreuvé de choses en permanence.
Oui, mais il faut se faire violence. C'est ça aussi. Tu vois, il faut.
Par exemple, la façon dont tu es anti-Macron, je suis sûr que ça vient de là.
Ah, pas du tout.
Il n'y a aucune nuance dans ton propos.
C'est pas vrai.
C'est parce que tu ne te rends pas compte.
Il y a un article.
J'ai mis quelques critiques positives par-ci par-là.
Il y a un article.
Le quotidien Le Figaro a signé un article récemment sur le bien-être des enfants, notamment sur les réseaux sociaux. Et effectivement, il montrait par exemple, il prenait l'exemple d'un gamin qui voyait pas mal de vidéos préconisant le lever à 5h du matin pour faire plein de choses, etc. Il a essayé de rentrer là-dedans, ça lui a ruiné la santé parce que son corps n'était pas adapté à ça. Mais c'est les réseaux sociaux, il n'avait plus que des publications Absolument. Là-dessus. Et c'est l'enchaînement des algorithmes, etc., qui lui faisait voir que des vidéos là-dessus. Et il pensait que c'était
c'est une révolution industrielle à la hauteur de ce qu'on a connu à la fin du 19e. Les réseaux sociaux, ça va modifier l'humanité. Je suis convaincu.
Ça la modifie. Oui. J'ai Grégory, nous avons Grégory en ligne du Gers, il est commercial. Bonjour Grégory.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Grégory, est-ce que vous allez faire une pause réseaux sociaux cet été ?
Non, j'ai déjà fait la pause, c'est terminé. En fait, je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est chronophage. Et en fait, les algorithmes sont faits pour nous inciter à tout le temps aller consommer. Mm. Donc en fait, on reçoit des notifications en permanence, des notifications sur des choses totalement insipides. Et donc, le réflexe qu'on a, c'est de dire, je vais aller regarder ce que c'est. Et puis on regarde, et puis ensuite on scrolle. Ouais, moi, j'ai supprimé toutes les notifications, à tel point que j'ai même été viré de X parce que j'avais plus d'activité dessus.
Ah, d'accord.
Donc, comme j'avais plus d'activité, on m'a supprimé le compte. J'ai dit, tant pis, j'irai plus. Je regarde un peu Instagram de temps en temps, Facebook. C'est surtout des réseaux pour rester en contact avec la famille. Mm-hmm. Du coup, j'ai diminué de 80-90% de ma consommation.
Et est-ce que vous vous sentez mieux, Grégory ?
Bah oui.
D'accord.
Le problème, c'est qu'on nous nourrit cette addiction en nous obligeant d'une certaine façon à aller regarder. Je le vois quand je me connecte. Parfois, on m'envoie une notification. Me dit, ah, vous avez une suggestion d'amis, je ne la connais pas, elle est à Paris, je m'en fous, je ne la connais pas, personne. Mais le réflexe qu'on a, c'est de dire, je vais le regarder.
Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est Anthony Morel, on a fait beaucoup de sujets avec lui là-dessus, et qui disait que le premier truc à faire sur les réseaux sociaux pour commencer à s'en passer, c'est d'enlever les notifications.
Ah oui.
Parce qu'en fait, à chaque fois, votre téléphone, vous le voyez s'allumer, et là, vous avez un petit réflexe d'aller regarder ce que c'est. Et puis le deuxième truc, c'est de mettre son écran en noir et blanc. Quand vous avez votre écran noir et blanc, en fait, vous n'allez plus jamais sur les réseaux sociaux, et parce que votre œil n'est pas alerté, en fait. En tout cas, merci beaucoup, Grégory, d'avoir été avec nous. Voilà, Grégory qui a fait une pause réseaux sociaux, qui a réussi à diminuer. Des messages avec vous, Martin.
Ouais, on a pas mal de messages. On a Chris, par exemple. Il y a 3 ans, j'ai volontairement laissé mon téléphone à la maison pendant mes 15 jours de vacances. Expérience très bizarre au début. On cherche son téléphone tout le temps, et puis on commence à vivre mieux, moins stressé. L'expérience de Chris, donc, qui nous raconte ça sur WhatsApp 0612 424 424. On a Ralph aussi. pendant les vacances, une pause sur les réseaux sociaux. Je le conseille à tout le monde. J'ai tout supprimé, tout déconnecté il y a 7 ans. Et qu'est-ce que la vie est mieux sans ce monde virtuel ?
Alors la complexité, c'est aussi que c'est aussi un média officiel pour certaines personnalités. Les personnalités politiques passent par X notamment pour faire leurs déclarations.
C'est pas toujours ce qu'on regarde quand même.
Français ou à l'international ? Oui, d'accord. Mais je veux dire, par exemple, Donald Trump, il s'exprime beaucoup à travers les réseaux sociaux. Emmanuel Macron aussi. La plupart des futurs candidats sont. C'est aussi leur média.
Sur BFM ou sur RMC, tu vois.
Oui, mais le problème, c'est que c'est devenu aussi. Il y a une force de médias aussi sur les réseaux sociaux qui font que on peut se donner bonne conscience en disant, bah tiens, je veux savoir ce que disent ces personnalités.
Ah non. Non. C'est les recettes de Loulou Kitchen, c'est ce genre de truc. Donc voilà. On est avec Laura qui nous appelle de l'Aude. Elle est créatrice de contenu voyage. Donc elle aura du mal à se passer des réseaux sociaux. Bonjour Laura.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour.
Laura, on passe combien de temps sur les réseaux quand on est créatrice de contenu?
Bah, en vrai, finalement, nous, notre cas, il est un peu particulier puisqu'on est créateur de voyage, de contenu de voyage. Donc, en fait, finalement, au moment du voyage, c'est le moment où on va être le plus actif et moins plutôt dans notre vie du quotidien, quoi. Je pense que je vous écoute depuis tout à l'heure. Je trouve que vraiment, le truc, c'est de vraiment trouver le juste équilibre entre le moment où on va publier, où on va faire du contenu, etc., où on va montrer un peu notre manière de voyager, et puis les moments où on est capable de mettre le téléphone dans le sac et de profiter simplement du moment qui est en famille, quoi.
Et ça vous apporte quoi, en fait, finalement, les réseaux sociaux? C'est une source de revenus, alors, pour vous, Laura?
C'est une petite source de revenus, mais au-delà de ça, c'est vraiment quelque chose, c'est du lien. Honnêtement, nous, on a commencé à faire notre compte Insta pour justement avoir de vrais conseils voyage, etc. Puis on s'est rendu compte que nous aussi, on pouvait inspirer des familles. Au départ, c'est un compte à deux. L'OM Dame Dream, c'est moi et Damien. Et puis finalement, on y a rajouté notre petite famille, nos enfants. Et c'est vrai que c'est le moment, c'est le moyen de montrer à tout le monde qu'on peut voyager, qu'on peut faire de super destinations en famille et qu'on profite tous ensemble.
Et donc votre compte s'appelle ?
L'OM Dame Dream.
Alors,
L'OM Dame Dream.
Ah, d'accord.
L-A-U.DAM.
Laura et Damien. Si vous n'y arrivez pas, on va pas y arriver, Laura.
D'accord. L'OM Dame Dream. Merci beaucoup. Laura, d'avoir été avec nous. C'est les chiffres et les lettres, là, carrément, dans l'émission. On vous a posé la question, tiens, sur le compte Twitter, cher à Yael Mellul. Estelle, midi, seriez-vous prêt à faire une pause à réseaux sociaux cet été?
Et vous répondez oui à une large majorité, mais 53% de oui, quand même.
Bon, c'est pas une large majorité.
Une courte majorité, pardon.
Il y a beaucoup de présidents de la République qui se satisferaient de cette avance.
C'est sûr.
C'est une très belle majorité.
Et pourtant, ce sont ceux qui sont justement sur les réseaux sociaux qui ont voté.
Oui, par les
Oui, mais on sait tous qu'il faut qu'on fasse une pause.
Entre ce qu'on déclare et ce qu'on fait après.
Par exemple, je retourne mon téléphone sur la table pour éviter d'avoir l'œil dessus pendant les émissions. Dans un instant, on va parler appli. Téléphone portable. quelle belle transition. Avec Anthony Morel, des applis pour partir sereinement en vacances. Va nous présenter plein de trucs super, Anthony. Ce sera dans un instant. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès. Sa dernière chronique de la saison à Anthony.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Ah ouais, ça vous met la pression. Hein. Je sais, mais bon, écoutez, vous partez en vacances. Et justement, vous profitez de partir en vacances pour nous présenter des applis à télécharger absolument pour partir en vacances l'esprit tranquille.
J'ai toutes téléchargées, comme ça, je suis fin prêt. Alors, notamment, première chose quand on part en vacances, c'est le petit stress de la valise. Voilà, faut rien oublier. En même temps, on veut pas trop s'encombrer non plus, et il y a des applications pour ça. Vous allez me dire, c'est de l'assistana. Ben oui, vous avez un peu raison, mais la société est comme ça maintenant. Vous avez des applications comme Packer, Packing ou encore Checkpack. Le principe, on entre sa destination, on entre le nombre de jours qu'on va passer, et ça vous dit le nombre de slips qu'il faut emporter. Je simplifie, mais c'est un peu ça.
Je pensais que t'allais sortir des vraies infos dont on avait besoin.
Attends, il y a d'autres choses. Non, mais attends, parce qu'il y a des gens qui sont tête en l'air. Ça va prendre en compte aussi les prévisions météo de la destination.
qualification où tu te rends, et donc en fonction de ça, ça va dire.
Bien.
Voilà, tu vois, c'est pas juste. Il faut prendre 10 paires de chaussettes parce que tu pars 10 jours, parce que là, ce serait un petit peu trop simple. Ça va quand même un petit peu plus loin que ça. Alors après, une fois qu'on est dans la voiture, pour optimiser le trajet, ça c'est important. Alors tout le monde utilise Waze ou Google Maps. Moi, je vous propose une alternative française qui fonctionne très très bien, qui s'appelle Roule, R-O-O-L-E. C'est une application formidable. Il y a les mêmes fonctionnalités, mais il y a même des petits trucs en plus. D'abord, ils n'utilisent pas vos données personnelles, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils vont vous faire économiser de l'argent parce qu'ils vous disent, ils vous demandent le type de véhicule que vous conduisez et ils vont vous dire sur le trajet, là où vous allez croiser, les stations-service les moins chères. Ils vont optimiser le trajet pour que ça vous coûte le moins cher possible. Ça, c'est pas mal. Troisième chose, alors ça, c'est pour ceux qui ont des animaux de compagnie. C'est un vrai sujet aussi pour les vacances. Qu'est-ce qu'on fait des animaux de compagnie? Oui, je sais que c'est pas un sujet pour vous,
Estelle. Sur quelle aire de repos les abandonner?
Ouais,
c'est horrible. Évidemment pas, évidemment pas. Et donc justement, il y a des applications formidables. Une application que je te conseille. Non, t'as pas de chien, Daniel.
Non, je pensais pas qu'il y a pas de chien.
C'est Empreinte Mon Toutou. Empreinte Mon Toutou, c'est formidable. Oui, c'est une application qui met en relation des gens qui ont un chien et qui partent en vacances ou pas d'ailleurs, mais voilà, et des gens qui n'ont pas de chien, qui aimeraient bien en avoir, mais qui veulent pas forcément posséder un chien.
On peut prêter un chien pour les vacances?
Ouais, c'est ça, exactement.
Mais le chien va pas s'adapter s'il est avec un autre maître.
Normalement, si. Alors, tu peux rencontrer avant pour qu'il y ait une forme d'acclimatation. Évidemment, les gens qui empruntent les chiens, entre guillemets, ils sont notés hein, et ils sont référencés. Tu laisses pas ton chien à n'importe qui. Mais l'idée, c'est que ça va te coûter beaucoup moins cher que de passer par un dog sitter si tu pars une semaine ou 15 jours. Mais très malin. Il y a plus d'un million d'utilisateurs.
C'est génial.
C'est une super bonne idée.
Quand ton enfant veut un chien, tu lui dis, bah tiens, occupe-toi déjà d'un chien pendant une semaine. Et je pense qu'au bout de la semaine, il dit, j'ai pas trop envie de le sortir tous les jours et tout. Ah, c'est génial quand même.
Emprunte ma belle-mère aussi, ce serait pas mal.
Bon. Ça, c'était avant le départ en vacances, Anthony. Une fois qu'on est arrivé, qu'est-ce qu'on a quand même?
Alors, il y a plein de choses. Si vous partez à l'étranger, évidemment, l'incontournable
Google Trad.
Oui, mais là encore, je vais vous présenter des innovations et des alternatives européennes. DeepL, D-E-E-P-L, ça fonctionne tout aussi bien que Google Trad, c'est génial. Vous avez les systèmes de traduction automatique, vous savez, vous avez les écouteurs dans les oreilles et vous avez la personne qui parle en face de vous et vous avez le doublage instantané dans les oreilles. Hein. Ça, c'est génial. Voilà, vous êtes comme si vous aviez un interprète qui vous murmurait à l'oreille. Et donc, ça fonctionne avec Google Trad, mais ça fonctionne aussi avec DeepL, avec cette application européenne que je vous recommande. Pour la météo, deux applis très pratiques. C'est Rain Today qui propose des alertes de pluie quasiment minute par minute. Ça, c'est pas mal pour
ça. C'est pour ceux qui partent en Bretagne, ça.
Ouais. Éventuellement, ou dans des destinations.
Okay, aujourd'hui, il pleut, mais franchement, on a eu un temps de fou.
Récemment, voilà, c'était pas vraiment ça.
Pas, t'étais...
Ma mère y était.
Alors, à l'inverse, vous avez Shadow Map qui vous donne les zones d'ombre et les zones en soleil. Si vous voulez trouver une bonne terrasse au soleil en fonction de l'ombre.
Enfin, les gens ne sont pas idiots. Ils voient bien qu'il y a de l'ombre ou du soleil, Anthony.
Si tu dis, je veux aller à telle heure, à tel endroit, c'est quoi la terrasse qui sera la plus ensoleillée? On va te trouver, en fait, là où il faut aller boire un coup, voilà, et optimiser pour boire un coup au soleil. Bon, pourquoi pas? Alors après, il y a les grands classiques, évidemment. Une fois qu'on est. Qu'on a payé par exemple au restaurant. Je sais que vous connaissez Tricount ou qui doit quoi.
J'ai jamais fait ça.
Vous avez jamais fait?
Non.
Bon, bah c'est pour, j'allais dire pour les radins, mais non, en fait c'est pas mal parce que ça évite aussi les disputes. Tu sais, voilà.
Parce que ça nous tombe dessus là.
C'est complètement gratuit. Il a pris une balle gratuite. Non, mais ça prend.
La pied gratuite.
Ça prend en compte, évidemment, les achats des uns et des autres et puis ça va faire les comptes à la fin sans avoir besoin de se faire le sketch de Muriel Robin à l'addition. Vous connaissez ça par cœur. Et puis, alors mon appli préférée, alors j'en ai déjà parlé, mais je l'adore. C'est Où sont les toilettes, qui était vraiment un incontournable pour les balades.
Avec ça.
Mais bien sûr, mais attendez, mais vous avez jamais eu hyper envie de faire pipi pendant une balade? C'est bien le problème, mais il y a des gens qui savent pas se retenir.
Je vais faire pipi si c'est en randonnée, dans les bois.
Non, mais en randonnée, d'accord, en ville. Non, mais en ville.
En ville,
j'ai des enfants avec les enfants
un pneu de voiture.
Bon, on voit le niveau d'hygiène des uns et des autres. Voilà, mais bon, où sont les toilettes? Moi je vous la recommande.
Si tu es en randonnée, tu peux toujours faire un boisson.
Ça c'est vrai.
Si t'es en pleine montagne.
Non, mais en montagne, c'est pas un problème, c'est en ville le souci.
Oui, je sais pas.
Très pratique.
C'est bien.
Tu vas dans un café.
Les cafés, faut payer un café, quoi.
Oui.
Enfin, pas les toilettes.
Parce qu'en plus,
c'est
radin.
Non, mais c'est plus contraignant.
En plus, il est radin.
Mais je suis absolument pas radin. Je paye un café à tout le monde, ceux qui le souhaitent, y a pas de problème.
On vous souhaite bonnes vacances à votre prostate, Anthony. Bonnes vacances à tous les deux. Et si vous voulez retrouver cette chronique.
C'est un super t-shirt.
Oui, bon, écoutez.
C'est gentil. Oui, c'est Hitchcock.
Voilà. Anthony, pour ceux qui nous écoutent en radio, donc un t-shirt Hitchcock. Excusez-moi, est-ce que je peux faire un lancement à peu près correct? Très bien. Donc, Anthony, merci pour cette saison. Voilà.
Merci à vous.
C'est toujours un immense plaisir de travailler avec vous depuis 5 ans. Anthony qui part en vacances, mais vous pouvez le retrouver en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble en direct, évidemment, jusqu'à 14h. C'est l'heure de l'intégral tour. 14h avec une très belle équipe autour de la table. Il y a Daniel Riolo, il y a l'ancien avocat Thiel Mellul, le journaliste et libraire Jean-Philippe Doux, Martin Bourdin également. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. Ensuite, gros débat en perspective à 13h30. Ah oui. Faire un break dans ce
très important.
Est-ce que c'est une solution pour raviver la petite flamme? Justement, mais écoutez, nous en parlerons. Et est-ce que c'est un break libre ou pas trop libre? Si vous avez déjà fait un break dans votre couple, eh bien vous nous appelez, vous réagissez 3216 et le WhatsApp
0612 424 424. Racontez-nous, on lira tous vos messages
évidemment. Et tout de suite, c'est le zapping
RMC. Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on démarre avec les GG ce matin sur RMC. Faut-il interdire la cigarette en pleine nature? C'est une proposition d'un maire d'une commune des Vosges dans laquelle un massif a brûlé. Il souhaite à l'interdiction de fumer en forêt pendant l'été. Et cette idée, elle est partagée par Flora Guébali, l'entrepreneur des GG.
Je rappellerai juste que sans arbres, on respire plus. Et sans forêt, on n'a plus d'oxygène, on n'a plus de qualité de vie. Aujourd'hui, vous regardez la France est jaune. Il y a des images satellites qui montrent le territoire. La France est plus verte, elle est jaune. Donc je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire que de protéger le vivant.
Alors, faut-il interdire la cigarette en pleine nature, Jean-Philippe Doux?
Alors évidemment, c'est quand même fou qu'on en vienne à l'interdire, mais il y a des arrêtés préfectoraux. Nous, dans le Sud, on a carrément des interdictions d'aller se promener dans les massifs, évidemment, parce que on se dit que les gens sont pas assez responsables, raisonnables. On voit, et moi je le vois vraiment dans le Var, où on connaît le danger des feux de forêt, on voit encore des touristes qui jettent leurs mégots par terre. Enfin, c'est incroyable. Alors que les mairies, j'étais dans la petite ville de Cuers, des petites villes qui mettent des budgets pour acheter et offrir des petits cendriers métalliques, vous savez, qui permettent de mettre les mégots dedans quand on est en balade et après de les jeter.
On peut aussi ne pas fumer quand on est en balade, en fait.
Voilà, moi, et ce qui est fou, c'est que pour quelques irresponsables, on est en train de remettre en cause la liberté de fumer. Moi, je suis non fumeur, j'ai jamais fumé de ma vie, mais je tolère que certains.
C'est pas grave de fumer pendant 2 heures, je pense.
Et puis c'est pas illégal, c'est en vente libre, etc. Donc, à cause de quelques irresponsables, on est en train de remettre en cause la liberté de fumer, qui est une liberté pour moi fondamentale, alors que je suis non fumeur. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on va y arriver, en fait, à dire, ben, vous n'aurez plus le droit du tout de fumer où que ce soit, parce que il y a des dingues là qui jettent leur mégot. Moi, à chaque fois, et on parle même pas de la pollution.
Vous savez, au lieu d'aller taper sur les dingues, toi, tu vas emmerder tout le monde, du coup.
Eh ben non, mais
tu peux ne pas fumer.
C'est pas moi,
en fait,
mais on sera obligé.
Je m'en fous, mais pourquoi, en fait, le problème, il est pas venu de là. Le problème, il est venu mais c'est pas accidentel.
Là oui, sur ce coup-là oui.
Oui, non mais
dans l'occurrence,
mais
elle
pas des plus par défaut, ils sont accidentels.
Mais
écoute, 90%
parce qu'il y a plus de cendriers dans les voitures, donc les gens jettent les mégots.
Mais bien sûr.
Et je parlerai aussi de la pollution. Bah, un mégot si dans la nature, c'est 500 litres d'eau.
C'est pas interdit quand c'est pas parce que tu t'es baladé dehors et que tu l'as jeté.
Bah si.
Mais comment tu vas faire, en fait? Le type, il est là, il se balade, il fume. La police s'arrête
et
l'arrête.
Et lui met une amende.
135 euros.
Exactement.
Mais oui, le problème, mais c'est ça le principe.
Je comprends pas votre interdiction, en fait.
Bah, l'interdiction, c'est juste que, en fait, c'est tellement dangereux de fumer en forêt qu'en fait, tu l'interdis. Point barre, en fait, c'est tout. C'est pas très grave de pas fumer en forêt, en fait.
Moi, je m'en fous, je veux pas fumer en forêt.
Et bah donc.
Mais je comprends pas comment tu vas appliquer ce truc-là.
Mais comment tu vas l'appliquer?
À chaque fois qu'il se passe un truc,
devant les écoles
ou une tragédie là, comme il se produit à Fontainebleau, hop, il faut une loi immédiatement. Mais en fait, là, on est entre deux personnes qui sont en garde à vue, qui vont être arrêtées, peut-être deux autres, mais ce sont des en l'occurrence, ce sont des criminels, les gars. C'est sur eux qu'il faut taper.
Mais la loi existe.
Vous les tapez sur tout le monde.
Mais attends, l'incendie de Penne-les-Mirabeaux l'année dernière, mais qui a ravagé des milliers d'hectares. Oui. Et ben, c'est un mec avec un mégot.
Attrape-le lui.
Mais il a...
Attrape-le lui.
Mais ok, mais
identifie-le et attrape-le.
Mais en fait, à partir du moment où, regarde,
pourquoi tu veux punir le plus grand nombre?
On n'a pas le droit de fumer devant des écoles, par exemple. Il y a pas le droit. Ben aujourd'hui, il y a plus de parents qui fument dans les écoles. C'est interdit. Point barre. Et pourquoi? Ben parce que c'est pas très sain que les enfants à la fois voient des parents fumer ou se prennent leur fumée. Je vois pas le problème de mettre un panneau à l'entrée. Enfin, dans plusieurs endroits stratégiques de la forêt. En même temps, interdit de fumer. Ben ouais, interdit de fumer.
Surtout que l'interdiction existe. Sauf que en ce moment, il y a pas de contrôle. C'est ce qu'expliquait le maire de Saint-Dié ce matin dans les Grandes Gueules. C'est que l'arrêté est là. Sauf qu'on ne contrôlait pas jusque-là. Et bien là, la police nationale, police municipale et l'ONF vont contrôler et vont verbaliser.
Je crois qu'à circonstances exceptionnelles, il faut prendre des mesures radicales. Il y a un risque réel qui se pose aujourd'hui. Voilà, la liberté de fumer, elle s'arrête là où il y a mise en danger d'espace de forêt, il y a mise en danger de la faune. Je veux dire, il y a des risques il y a des risques incendiaires. Donc si il y a encore des gens qui sont complètement irresponsables au point de fumer, d'écraser une cigarette sur des terres qui sont hyper sèches, eh ben il faut qu'il y ait une condamnation extrêmement sévère. Parce que le risque est grave, en fait.
Alors moi, je vais dire
c'est une ancienne grande fumeuse qui te le dit.
Je vais dire que vous m'avez convaincu, que je suis d'accord avec vous, vous avez raison, vous mettez le panneau et vous interdisez. Ouais. Très bien, je vais aller dans votre sens.
Ok.
Je veux maintenant savoir, les deux personnes qu'ont mis le feu à Fontainebleau, qu'est-ce qu'elles vont prendre comme sanction.
Ah oui,
parce que quand j'entends Emmanuel Macron, il y a deux secondes, dire... Nous serons intraitables, machin. Déjà, il va falloir comprendre que quand les gens quand les gens du pouvoir exécutif nous font le coup, que ce soit du Karcher, de l'intraitable, de machin, ci, cela, déjà qu'on sache que c'est pas eux qui décident. Soit ils font en sorte de faire voter les lois qui vont rendre les choses plus sévères et qu'ils le fassent, puisque beaucoup de Français veulent qu'on soit un petit peu moins laxiste sur toutes ces affaires-là. Mais là, en l'occurrence.
Mais il risque 15 ans de prison. Donc en fait, le problème, c'est que la loi ne sera pas appliquée. Mais la loi, elle est bien faite.
Le problème, il est là. Donc vous allez me mettre les amendes pour le pauvre gars qui va fumer, qui jettera pas son mégot. Lui, il va aller prendre les 135 dans la gueule. Et les mecs qui ont foutu le feu à Fontainebleau, ils feront peut-être pas un jour de tôle.
Ils sont en prison là.
Il faudrait moi, je vois des gens qui sortent de tôle quand ils ont tué quelqu'un 5 ans après.
Donc
pour un feu de forêt, on verra. Donc moi, tout ce bordel des sanctions, de on va condamner machin, le pauvre gars, il se balade dans la forêt, il avait une clope à la main, il a rien fait, il pensait juste aller l'éteindre, il va prendre 135. Et pendant ce temps-là, on libère des gens. Et les deux qui sont en garde à vue là, je suis impatient de savoir combien de temps
ils vont prendre de la prison ferme, les deux.
Il y en a un qui est en détention provisoire. Okay. Ce sont des crimes qui sont passibles de 15 ans d'emprisonnement.
Une fois que l'avocat mettra son nez dans le dossier, une fois que les juges mettront leur nez dans le dossier, on va voir ce que ça donnera.
Mais là, il y en a.
Et permets-moi d'être un petit peu circonspect sur l'issue.
Il y en a qui sont sortis, ils ont fait 5 ans de prison, là, justement.
Par exemple, on en parlait hier, il y a un pompier qui avait mis feu en 2019. Un pompier dans le Gard, un pompier qui avait été à l'origine de 43 départs d'incendie, avait été condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes.
Voilà, ok.
C'est pas beaucoup, hein.
Merci, au revoir. Gardez vos 135 balles pour le fumeur en forêt. Merci. On peut changer de sujet.
Mais c'est ce que nous allons faire, Daniel. Merci de nous donner la permission.
C'est pas énervant, ça?
Mais bien sûr, ça m'énerve.
Vous arrivez avec vos 135 balles, allez, on donne à tout le monde, machin. Et après, les gens qui réellement commettent des délits.
Mais attends, les mégots.
C'est énervant au bout d'un moment.
Les deux, mais tu peux avoir les deux, Daniel.
Mais on l'a pas, les deux. On n'a pas les deux. Là encore ce matin, je dis, le mec qui avait buté, comment il s'appelle, le jeune, un fait divers et tout, 3 ans en bande. Trois ans après, hop, il sort de tôle. Non, mais c'est pas possible,
en fait. Mais le problème aussi, c'est qu'on peut pas.
Les amendes, on est fort pour les amendes.
Mais on peut pas les arrêter tous. On peut pas les arrêter tous. Donc, il y a un moment, voilà.
Et même ce qu'on arrête.
Mais oui.
Les GG ce matin sur RMC. Faut-il arrêter le son des cloches la nuit? C'est la décision. Écoutez bien, prise par un village près de Lyon.
Ça, c'est important là. Et puis là, on va légiférer le son des cloches.
Les tintements du clocher seront désormais arrêtés de 23h à 6h du matin. Pourquoi? Eh bien, pour éviter de déranger les habitants qui dormiraient la fenêtre ouverte. Pour Didier Giraud, l'agriculteur des GG, on marche sur la tête. Écoutez.
Moi, je considère que ceux qui n'arrivent pas à dormir, c'est ceux qui sont pas assez fatigués de leur journée de travail. Première chose. Deuxième chose, si tu n'arrives pas à dormir parce qu'il y a des bruits qui viennent, alors c'est la cloche, mais demain, ça sera quoi? Ça sera les vaches.
Exactement.
Donc, à un moment donné,
la cloche, est-ce qu'elle a besoin de
fenêtre? Si tu n'arrives pas à dormir la fenêtre ouverte, tu fermes la fenêtre. Et le problème, il est réglé, quoi.
Est-ce qu'il n'y a pas une logique quand même?
Non, il
n'y
a pas de logique.
Les sons des cloches de.
Ben non, il n'y a pas de logique. Ça, c'est encore des citadins qui vont emmerder la population locale.
C'est pas les citadins, c'est le maire là.
Bah ouais, mais enfin, il a tort. Voilà, il
non,
a
mais
tort.
C'est à la demande d'une citoyenne. C'est à la demande d'une habitante.
Voilà, c'est à la demande d'une habitante. Mais tu vas pas habiter dans des coins où tu sais qu'il y a une église.
Tu sais qu'il y a une église. A priori, ça fait beaucoup de coins en France.
Bah oui, bah
les villages.
Mais ça, c'est dans une ville où il n'y a pas d'église.
C'est forcément une citadine qui n'est pas habituée aux bruits locaux, en fait.
C'est comme. Il y a déjà beaucoup de communes dans lesquelles les cloches ne sonnent plus la nuit.
Oui, à quoi ça sert que la cloche sonne la nuit?
C'est une tradition.
Voilà. T'as qu'à prendre ta montre et tu regardes l'heure.
Ça fait partie de
c'est traditionnel. C'est comme le coq. C'est comme, voilà, c'est comme les citadins qui vont habiter en campagne et qui vont faire des actions, qui vont engorger les tribunaux.
Depuis qu'on prend le métro, est devenu bobo, Estelle.
Quand tu habites à côté d'un poulailler, bah, t'as des bruits de poules et de coqs le matin.
T'es très bien. Moi, j'adore les sons de cloche la nuit. Donc,
là, moi aussi, j'adore.
J'adore ça. Voilà. Mais je peux comprendre qu'effectivement, il y a des gens.
Voilà,
oui, tout le monde n'a pas un triple vitrage et elle met excusez-moi. Bon, bah voilà.
Là, c'est à cause de la canicule.
Et t'emmerdes pas le monde.
L'histoire,
c'est
quoi?
Bah pourquoi ça va pas?
Et l'histoire, c'est que l'habitante en question, là, justement, en ce moment, elle ouvre les fenêtres parce qu'il fait trop chaud, etc. Mais moi, par exemple, j'ai choisi mon village, justement, parce que je veux avoir et j'adore, et ça fait partie de l'environnement que j'adore, c'est entendre les cloches. Et en plus, la nuit, pardon, mais c'est pas beaucoup, c'est un coup par heure. Donc c'est, un coup, et je parle bien de la cloche. C'est, un coup à une heure.
J'ai honte là. Je vous jure, mais en fait, on est en 2026
en
fait.
Trois coups, trois heures.
C'est possible,
pardon. Et quand je vais dans les pays musulmans, j'adore aussi entendre l'appel à la prière à 4-5 heures du matin. Ça fait partie de l'environnement en fait. Et parce que demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux agriculteurs qui partent à 4 heures du matin à cause de la canicule, qui sont en horaire décalé, qui ne pourront plus passer avec leur tracteur dans les villages à 4 heures du matin pour aller bosser. Enfin, après, on ouvre une boîte de Pandore qui est énorme. Non?
Je
sur le un coup par heure.
Je réfléchissais. Bah, oui, bah, les sons de tracteur à 4h du matin, on ne sait pas.
Ben oui.
Mais bon, on ne va pas les enlever, de toute façon, on ne va pas enlever les agriculteurs.
On peut interdire les tracteurs.
Mais bon, le clocher, peut-être que l'été, tu peux l'enlever, tu vois.
Yael parlait de nouveaux citadins. On a Tony qui nous écrit sur WhatsApp. J'habite en ruralité, pas très loin d'une église. Clairement, c'est relou. J'ai toujours habité en ruralité et j'ai toujours trouvé ça relou. Quel est l'intérêt qu'une cloche sonne à 2h ou 3h du matin?
Oui, il a un peu raison quand même, Yael. Excusez-moi, à un moment, c'est le vivre ensemble. Vous savez, c'est une expression qui est quand même très utilisée en ce moment. Mais
c'est des pratiques qui sont
société, Yael.
Faire société, c'est ne pas enlever les repères culturels d'une société.
Et c'est exactement ça.
Allez, okay. C'est beau, ça.
Repères culturels des cloches.
Exactement.
Bien. Enfin, vous me trouverez des villages où il y a plus d'église, Yael, pour aller habiter. Apolline Matin, ce matin sur RMC. Faut-il s'inquiéter de la nouvelle hausse des prix des carburants? C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Avec la reprise des tensions au Moyen-Orient, les prix à la pompe repartent à la hausse. Une augmentation qui pèse sur le budget des Français, rencontré par notre journaliste RMC.
Bien sûr que ça impacte sur les budgets de tout le monde et on a besoin de nos caisses.
Rien que pour le quotidien, je dois faire 3 fois mon plein dans le mois. Et c'est à 53€ le plein à présent. Le calcul est rapide, à peu près 150€ par mois. Loisirs personnels, c'est beaucoup plus limité. Achats personnels, on oublie.
Prendre plus la voiture. Le vélo ou la marche à pied.
C'est censé faire une sorte de road trip France et Allemagne. On a fait des sacrifices un petit peu avant, on a fait des économies, des machins pour prévoir ça. Mais c'est vrai que quand on a vu le prix, on s'est dit bon...
Est-ce que vous êtes inquiet, Jean-Philippe Doux, de cette hausse des prix des carburants?
Bah oui, en fait, je suis très attentif au prix du litre parce que je roule beaucoup en ce moment. Je fais une tournée sur tout le sud, donc je suis beaucoup à faire des pleins d'essence et je vois ces variations là. Je suis content quand je vois 1,80€, ce qui est dingue de se dire oh super 1,80€ le samplon 95. Et en fait, on n'en parle pas trop parce qu'en ce moment il y a plein d'autres actus, et notamment la canicule, etc. Et les feux de forêt, mais ça continue en fait d'être un vrai souci. Et oui, c'est une vraie cause de stress pour les Français au quotidien dans certaines régions, et notamment hors Paris. Et c'est vrai qu'on n'en parle plus. Et je trouve.
On n'en parle plus parce qu'en fait, on s'habitue presque.
On a changé notre logiciel.
Non, 1,80, c'est acceptable.
1,80, c'est bien.
Et surtout, on a à peu près tout essayé, tout fait et on n'y peut pas grand chose.
Oui.
Et même, on s'est même rendu compte que les aides, dont on parlait.
Ils ne viennent pas, en fait.
Dont on parlait.
Non, les gens ne les demandent pas, c'est trop compliqué.
Non,
tu peux pas dire que
Aides par rapport à l'augmentation du prix de l'essence qui devait.
Elles n'ont pas été. En fait, les gens ne les ont même pas demandé.
Voilà.
En fait.
Mais elles n'ont pas été.
Voilà. Parce que c'était tellement compliqué.
Pendant que toi, tu chouines sur le plateau, là, et les gens, ils ne vont même pas les demander. Excuse-moi, mais c'est pas normal.
Parce qu'en fait, les gens, ils se disent quoi? Ils se disent, en vrai, on va te filer une aide de 100 euros. Je vais y passer 2 heures de mon temps à essayer de demander et tout. Et 100 euros, c'est.
Alors, dans ces cas-là, tu veux qu'on fasse quoi? On fait rien et puis on arrête d'en parler. Alors.
On passe à l'électrique. Jean-Philippe, voilà, qui était très réfractaire à l'électrique.
Je commence à.
Ça y est, commence à envisager.
Ceux qui peuvent l'envisagent. Ceux qui ne peuvent pas, s'ils ne vont pas chercher les aides quand on les donne, pardon, mais je ne vois pas de solution.
Mais enfin, c'est pas avec 100 balles.
Tu veux faire quoi?
C'était pas avec 100 balles.
Mais tu veux faire quoi?
C'était 100 balles sur un an.
Tu veux faire quoi? Tu sais très bien qu'on essaye des solutions et ça marche pas, les aides. Donc arrête.
La solution, c'était la diminution des taxes.
Elle tend un peu. Moi, je suis arrivé extrêmement détendu.
Oui.
Elle tend un peu.
Je trouve que vous vous tendez au fur et à mesure de l'émission.
Oui.
Alors que
il est 13h20, je sais pas quand je finis à 14h.
Alors, excusez-moi, mais le climat était très sympathique et là, vous tendez les gens.
Oui.
Là, faut.
Ah donc c'est moi le responsable.
Oui,
bien sûr.
C'est pas toi. Yaël.
Non, vous Daniel. Non, alors là, excusez-moi, mais vous.
Estelle, sache que je suis extrêmement déçu.
Vous vous tendez tout seul. Et je sais quand vous tendez, car vous avez la veine de votre cou.
Oui.
Depuis 25 ans. Vous avez la veine de votre cou qui gonfle toute seule. Et là, je sais, je me dis ça y est, ça va recommencer. Voilà, Daniel. Donc.
Ça, c'est les trucs au poker, ça qu'on regarde.
Oui.
Quand quelqu'un fait une mise, on regarde si ça gonfle.
Et là, je regarde votre bluff.
T'as eu l'impression que j'ai fait une grosse mise en bluff.
Ouais. Je regarde votre bluff, Daniel, et je sais que. Il y a une mise en tension qui est en train de se faire.
Ils sautent autant.
Ils montent tout seuls.
Je suis très détendu, mais Yaël, parfois, bon.
Bon, je vais vous détendre dans un instant. Ah. Pourquoi? Car nous allons parler de couple.
Très
avec une question. Ah. Nous ne l'avons jamais abordée encore dans SNB, ça paraît fou. Mais faire un break dans son couple pour pouvoir rallumer la petite flamme qui parfois somnole, vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
Il y a une petite flamme,
si vous, c'est qu'une petite flamme, tant pis pour vous, il y en a qui c'est une grande flamme.
Non, mais ceux qui font un break, c'est que la flamme est. La flamme est. Voilà. Elle n'est pas. C'est une grosse flamme, vous voyez ce que je veux dire?
Daniel Chalumeau.
Oui, c'est un briquet, quoi.
Oui, la bougie.
Je ne me contente pas d'un briquet, madame.
Là, la bougie est en train de s'éteindre. Alors.
La grosse mèche.
Faire un break dans son couple pour rallumer la flamme. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Avez-vous déjà fait des breaks dans votre couple? Et si oui, est-ce que c'était des breaks libres, c'est-à-dire avec adultère ou
on est dans autre chose.
C'est juste qu'un break, là.
Mais excusez-moi, il y a plusieurs formules de break. Nous aborderons dans un instant avec Martin Bourdin et avec tous nos auditeurs qui nous appellent au 3216 et sur le WhatsApp 06 12 424 424. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h25, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, en compagnie aujourd'hui de Martin Bourdin, de Jean-Philippe Doux, de Yael Mellul et de Daniel Riolo. Et on va tout de suite parler de couple avec la théorie du jour. C'est la July Theory, c'est-à-dire la théorie du mois de juillet. Et oui, mais ça existe. Et cette théorie, elle nous apprend que le mois de juillet serait le plus propice aux rencontres amoureuses et donc aux ruptures. L'été, on le sait, on se sent.
Là, on n'apprend rien, l'été.
Oui, on se sent plus libre, on est beau, on est bronzé, on est plus détendu. Et c'est peut-être aussi l'été. Le bon moment pour faire un break, histoire de réfléchir à son couple et de raviver la flamme, Martin. Raviver la flamme ou pas, d'ailleurs.
Oui, ou pas, d'ailleurs. En tout cas, c'est peut-être l'occasion d'essayer d'éviter peut-être de finir comme 10% des couples qui se séparent au retour des vacances passées ensemble, d'après une étude du quotidien britannique The Daily Mail. Oui, la pause pendant les vacances peut sauver des couples à condition qu'elle soit bien faite. Ça, c'est ce que disent des psychologues spécialistes du couple. Ils préconisent de suivre évidemment quelques règles bien définies avant la pause. Déjà, définir la durée de la pause à l'avance.
Et il faut s'accorder sur la durée.
Oui, voilà. C'est mieux d'être d'accord là-dessus. Définir si c'est une pause libre ou non. En gros, si on a le droit d'aller voir ailleurs ou pas.
Si on a défini la fin de la pause au 30 juillet et que le gars est allé avec une autre femme le 29, ça marche.
Bah oui, ça marche.
Tout dépend des règles que t'as mis dans ton couple.
Bah oui, il faut mettre des règles.
Et si c'est dans la nuit,
avant minuit.
Le 30 y compris. Il faut aussi mettre une vraie séparation. Donc en gros, on s'appelle pas pour tout et n'importe quoi, se dire qu'on a mangé par exemple. Alors, c'est pas une recette miracle, évidemment, précisent les spécialistes.
Tu as le droit de stalker quand même sur les réseaux.
Oui, tu peux. Mais c'est un outil pour éventuellement.
Tinder en passant.
Les spécialistes nous disent que ça peut être un outil pour solidifier la relation. Alors c'est quand même un petit peu risqué, j'ai regardé 24% des personnes qui veulent se séparer utilisent l'excuse de la pause pour adoucir le coup. Ils n'ont aucune envie de se remettre en couple après la pause.
Et ceux qui ont envie d'aller voir ailleurs également.
Oui. Donc faut se méfier, évidemment, d'autant que l'été, on l'a dit, c'est la période des ruptures. 3 couples sur 5 se séparent pendant l'été.
Ah, c'est beaucoup quand même.
C'est pas le break au mois de janvier, comme par hasard.
Bah, évidemment. Bah, oui. Tu parles
c'est le break avant Noël.
Après le nouvel an, des fois, t'en as quand même.
Mais bien sûr. Et c'est surtout qu'en fait, ça y est, t'as passé Noël et tout, c'est la période des fêtes, donc tu te sépares après Noël. Tu te sépares jamais. Tu te sépares pas le 15 décembre avant Noël. Enfin, il y a quand même des choses qui ne se font pas. Bon, alors. Bien sûr. Faire un break dans son couple pour raviver la flamme, bonne ou mauvaise idée. Jean-Philippe Doux, avez-vous déjà fait des breaks?
Non, parce que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. En fait, si on commence à se dire, il faudrait qu'on fasse un break. Déjà, il faut que les deux soient totalement d'accord sur le fait de faire un break.
C'est mieux.
Que ce soit libre ou pas, la durée. Enfin, c'est impossible que les deux aient exactement les mêmes envies.
Mais quand tu vois que ça va pas et qu'a priori là ça va se terminer par une rupture, le fait de dire écoute, réfléchissons à notre couple, c'est pas mal quand
même. Alors ça veut dire aussi qu'on n'a pas d'enfants ensemble, parce que c'est comment mal, on explique aux enfants, d'ailleurs mon papa et maman vont être en break là, donc on va être séparés pendant 15 jours ou un mois. Après le mois de juillet, moi je comprends qu'il y ait des séparations, parce que autant le reste de l'année on se voit assez peu parce qu'on a chacun nos activités, etc. Et puis là, quand on se retrouve en vacances, c'est un peu un one-to-one où on se retrouve face à l'autre non-stop. Et là,
on a la charge mentale. Hein.
Oui, c'est vrai. Et il y a aussi des choix qui se font au quotidien, dire tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on va visiter ça ou pas, etc. Donc en fait, on se retrouve vraiment, on peut pas s'échapper. Parce qu'on part tous les deux au même endroit, alors que le reste de l'année, on va une soirée fille, une soirée pote, etc. Donc, je pense que c'est le 100% avec l'autre qui fait qu'on voit si on est encore compatible ou pas. Mais moi, un break, alors là, jamais de la vie. L'histoire du break, en effet, c'est le fait de dire, on n'ose pas dire séparation, donc on va dire break, et puis au bout d'un mois, on se met d'accord, pour dire, finalement, on se remet pas ensemble.
Mais regardez, aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples qui se séparent. On se sépare un peu pour un oui, pour un non. Parfois, si tu te dis, tiens, on fait un break, j'ai n'importe quoi, de 2 semaines, on s'appelle pas, on réfléchit et tout, et parce que là, parce que quand tu fais un break, c'est quand même déjà, c'est un peu ton axe. C'est-à-dire que ton couple, il est quand même déjà en train de vaciller.
Le verre est dans le fruit.
Voilà, le verre a déjà bien mangé le fruit.
Oui.
Et donc tu te dis, on se donne, 2 semaines, oui. 1 mois, on s'appelle pas,
non,
on vit notre vie chacun de notre côté et on voit à la fin.
Mais les enfants, quand on a des enfants, c'est impossible ça.
Oui, les enfants vont avec maman, a priori. Donc
et papa avec madame.
Et papa avec.
Dans une émission moderne.
Je rigole, tout va bien. Yael Mellul, pas un break.
Alors, meurs pas du tout.
Vous êtes séparés, Yael. Non, vous aviez fait un break.
Mais
c'est pas
du tout.
C'est peut-être un break d'ailleurs.
C'est dur. Non, le break, c'est une escroquerie totale. Le break, c'est la rupture des lâches. Ouais, c'est pas compliqué. C'est ceux qui n'ont pas le courage, et en l'occurrence, c'est quand même majoritairement les hommes qui n'ont pas le courage de rompre. Ils vont dire, allez, on va faire un break. Et alors, opportunément, ça va se faire au mois de juillet, avant le voyage à Ibiza avec les potes. Donc, mesdames,
c'est une belle opportunité.
Voilà, mesdames, quand votre compagnon vous dit je veux faire un break, courage, fuyez quoi. Vraiment, c'est déjà que c'est mort. C'est mort de toute manière.
On a l'impression que t'en as fait les frais.
Ouais.
Ouais, bien sûr. Je parle d'expérience.
Je sais de quoi se parle.
Ils se reconnaîtront.
Voilà, ils se reconnaîtront. Donc voilà, non, les breaks, c'est vraiment.
Oui, mais vous voyez. Franchement, si vous aviez fait un break avant, vous posez,
Estelle.
Si t'avais su passer l'éponge sur les envies de ton compagnon, s'il avait envie de prendre l'air, voyons.
Est-ce que vous êtes rigide, c'est incroyable.
C'est fou d'être tendu comme. Depuis tout à l'heure, je te dis que t'es tendu.
C'est toi qui es tendu.
Daniel Riolo, jamais de break?
Non, alors moi. Oula. Tout ce qui est enquête dans les magazines féminins, elle, machin, alors ça me fait vraiment rire de lire ça sur la plage. Mais moi, tout ce qui est mode d'emploi sur l'éducation des enfants, sur comment mener son couple et tout ça, c'est hop, boule en papier et corbeille. C'est du bidon complet. Et puis il y a des psys en plus qui parlent de ça.
On en aura une, tiens, dans un instant.
Eh ben, c'est du bidon. Je t'ai dit d'avance, c'est du bidon.
Mais Daniel, réponds.
Qui t'écoute là?
Mais Daniel, réponds à Estelle. Break ou pas break? Est-ce que t'as déjà fait un break?
C'est comme quand on reçoit des leçons pour éduquer les enfants. Chacun fait comme il peut. Voilà. Je pense qu'a priori, oui, on va pas les taper. On va pas les enfermer à la cave, sinon, voilà. Mais chacun fait bien comme il peut. C'est déjà très difficile. Donc, recevoir des leçons sur tous ces domaines-là. Sur mener une vie de couple, mais chacun sait, et tout le monde a eu des expériences dans la vie pour savoir que selon la durée, oui, c'est pas facile, et que oui, il peut y avoir des problèmes, que oui, il peut y avoir des tensions et des moments difficiles. On a tous connu ça, surtout si t'as 50 ans par rapport à une vie grosso modo a commencé à 20 ans dans ce domaine. Donc on arrive en disant ah le break ça va être une bonne idée. Et puis alors s'il part en vacances tout seul ça va être une bonne. Mais arrêtez avec tous ces trucs bidons. Si tu fais un break c'est que c'est mort.
Mais
tu fais un break c'est que c'est mort.
Mais bien
c'est
sûr.
Que, arrête avec le coup de la flamme et le briquet. Je rallume le barbecue. Enfin, c'est des conneries tout ça. C'est des conneries. Tout le monde le sait que c'est des conneries.
Mais bien sûr.
Et,
oui.
Et tu reviens après le break et en fait il y a quelque chose qui s'est abîmé parce que l'autre pendant ce temps-là il a eu une petite idée. Peut-être la femme aussi, elle s'est dit, ah tiens, le collègue au bureau, on sait
et
jamais.
Et ben au moins, tu sais que c'est mort.
Mais et ben mais tu le sais que c'est mort, donc t'as pas besoin d'avoir une enquête, t'as pas besoin d'un psy, t'as pas besoin de machin. Tu le sais, c'est fini, voilà. C'est
mort, bah, on aura quand même notre psy qu'on adore en plus, c'est le midi.
Oui.
Dans un instant, Marie-Prune Baudin qui patiente là au téléphone pendant que Martin lit des messages d'auditeurs. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des breaks et ça a marché?
Il y en a qui ont fait des breaks et pour qui ça a pas marché surtout.
Ah oui.
Thomas qui nous écrit à chaque fois que j'ai fait un break, ça débouchait plus sur un break en CDI plutôt qu'en CDD. C'est souvent le début de la fin.
C'est très drôle.
Ré, ça fait 15 ans. Ré, ça fait 15 ans que je suis en break, j'attends toujours des nouvelles pour s'en mettre ensemble.
je suis toujours là.
Et Muriel qui nous dit le break de deux mois, c'est le début de la fin. Une soirée, un week-end, pourquoi pas, mais après ça ne fonctionne pas. Bon, il y en a quand même pour qui ça c'est.
Bah, le break du week-end, c'est quand même un mini break.
Le break d'une soirée, c'est quand même joli. Ouais, on se met un petit break là, ce soir j'ai un grand rendez-vous.
Il y en a quand même pour qui ça marche. Saïda, j'ai déjà fait un break au début de ma relation avec mon compagnon. Début. C'était court et bien sûr, hors de question d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, ça fait 22 ans et on se marie en 2027.
Peut marcher. Et donc, nous allons avoir les conseils, taisez-vous Daniel, de Marie-Prune Baudin, qui est psychologue, clinicienne et psychanalyste à Strasbourg. Bonjour Marie-Prune. Ah ben voilà, elle a raccroché. Merci Daniel.
C'est l'effet Riolo, ça.
Attendez, Marie-Prune Baudin, vous êtes avec nous? Ben voilà.
Elle a fait un break.
Elle a fait un break.
Non, moi, je suis pour rien, moi.
Ça aborde l'émission.
Mais moi, c'est incroyable, Daniel. On parle.
Moi, j'ai juste donné.
On va vous rendre compte de votre comportement.
Mais moi, j'ai juste.
Ah, c'est fou.
Mais moi, j'ai juste donné. Mais j'ai rien dit, moi.
C'est une psychologue. On avait dans une émission depuis 5 ans. Et là,
vous elle nous a jamais fait ça.
Enfin, c'est incroyable. Mais enfin, vraiment. Bon, elle est revenue. Bon. Attendez. Marie-Prune Baudin est avec nous, donc psychologue, clinicienne et psychanalyste à Strasbourg. Bonjour Marie-Prune.
Bonjour à
tous. En revanche, il y a une très mauvaise liaison téléphonique, hein, Marie-Prune. Voilà. Bon, écoutez, on va la rappeler. Finalement, ça n'avait rien à voir avec Daniel. Et on va prendre Simon de Béziers en ligne. Simon, il est kinésithérapeute. Bonjour Simon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Simon, est-ce que vous avez déjà fait un break dans votre couple?
J'ai déjà fait un break, ouais. J'ai fait un break il y a un an et demi et ça a été peut-être la meilleure chose pour mon couple.
Ah mais génial, mais racontez-nous.
Eh bien en fait, à la base c'était à la demande de madame, donc parce qu'il y avait un gros manque de communication dans notre couple. Et puis du coup ce qui s'est passé c'est que on a fait un break, moi je suis retourné chez mes parents et... On en a profité pour faire chacun un travail personnel avec un psychologue.
Ah ouais, d'accord.
Et en fait, on s'est retrouvés du coup au bout de deux semaines et c'était reparti comme au début.
Et alors attendez, et Simon, c'était un break libre ou pas un break libre? C'est-à-dire que vous aviez le droit de faire ce que vous vouliez ou pas?
Ah non, c'était pas un break libre. Non, c'était un break. On avait à cœur de quand même sauver notre couple.
D'accord.
Ah oui.
Et qu'est-ce qui a fait en fait que tout d'un coup c'était comme au premier jour deux semaines après?
Ben parce qu'en fait c'était un travail déjà de quelques semaines en amont avec un psychothérapeute, chacun de notre côté. Et en fait on a beaucoup discuté, même avec ma compagne on a beaucoup discuté. Excusez-moi, je suis en train de marcher et je vais voir un patient.
Ah oui.
Et donc il y a du dénivelé. On a beaucoup discuté en fait. Et
mais vous avez discuté tous les deux ensemble.
Mais vous avez discuté pendant votre break?
Avant.
Ah oui, parce que sinon c'est pas un break.
Avant, donc on savait déjà qu'est-ce qu'on devait travailler chacun de notre côté.
Ah ouais.
Et après les
deux. Donc c'est un chantier votre couple.
Mais enfin Daniel.
Mais non mais s'il faut discuter de comment faire évoluer.
Mais enfin ça valait le coup.
Normalement c'est pas une construction comme ça un couple. On n'en est pas à se dire enfin c'est bizarre.
Parce que vous avez expliqué à Simon ce qu'il doit faire dans son couple.
Après 7 ans. Après peut-être qu'après 7 ans ouais une petite réunion de chantier en effet c'est peut-être pas mal.
Et justement alors en tout cas merci Simon de nous avoir appelé mais on va écouter ce qu'en pense Marie Prunebaudin qui est revenue avec nous psychologue clinicienne et psychanalyste à Strasbourg. Ça va Marie Prune? Oui, alors là, il y a un petit souci quand même. Non, mais, est-ce que Marie Prunebaudin est avec nous? Bon, écoutez, là, je pense que là je pense qu'on ça ne.
Ben, qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, on n'arrive pas à la voir. On va essayer d'avoir quelqu'un d'autre, ou sinon Marie Prunebaudin, si elle nous rappelle d'un autre téléphone.
Peut-être le psy de Daniel, non?
Juste Simon, pendant votre break avec votre compagne, est-ce que vous avez fait silence radio, c'est-à-dire pas du tout d'appel, pas de petits messages, rien?
Alors, on s'est pas donné des nouvelles tous les jours, mais il y a eu quand même des petits messages où on s'est rendu compte qu'on se manquait l'un l'autre. Et donc, parce qu'à la base, normalement, ça devait être un break de 3 semaines.
Ouais.
Et en fait, au bout de 2 semaines, on s'est retrouvés. On a eu une discussion qui a fait que là, on savait que c'était reparti. Voilà, c'était reparti et que ça nous allait comme ça.
Bah écoutez, super.
Mais avant d'arriver au break, ça allait pas entre vous?
Bah sinon, ils auraient pas fait de break.
Bah oui, mais je savais.
C'est rare de dire tout va bien, on va faire un break.
Vous étiez dans des disputes permanentes? Qu'est-ce qui a provoqué le fait de faire des disputes?
C'est plutôt manque de communication qui a fait que à un moment donné,
mais vous parliez plus, manque de communication, c'est parce que vous parliez plus?
Non, on se parlait, mais c'était par rapport à. Par exemple, s'il y avait un problème, je vais pas rentrer dans les détails, mais s'il y avait un problème, on n'en parlait pas forcément, et en fait, ça restait, et ça s'accumulait. D'accord. Jusqu'au moment où elle était plus sûre de ses sentiments, et donc voilà.
D'accord. Bah, écoutez, prise de conscience.
Ouais. Bravo, en tout cas, Simon, comme quoi un break, ça peut aussi marcher. En tout cas, c'est le cas de Simon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Simon, et bonne consultation, parce qu'il est kiné. Oui. Il allait voir un patient. Des messages sur le WhatsApp, Martin.
Preuve que ça peut marcher également avec Muriel au 0612 424 424. 31 ans de mariage hier après 2 breaks qui ont sauvé notre couple, nous écrit Muriel.
2 breaks?
Ouais, exactement. 2 breaks et 31 ans de mariage, donc désormais pour Muriel. Félicitations à elle et à son mari. Franck, je connais un couple qui a fait un break de plusieurs mois, voulu par les deux, un peu plus par l'homme. Ils sont revenus ensemble après le break. Ça fait 30 ans qu'ils sont mariés également. Ouais. Mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, nous dit Franck.
On ne sait pas ce qu'il a fait pendant le break. Vu que c'est lui qui a demandé. Non, mais c'est lui qui a demandé.
Bah oui, d'accord.
Mais enfin, ça marche derrière.
C'est lui qui a demandé.
L'occasion fait le larron.
Bah évidemment, si l'occasion fait le larron, après, c'est bien.
Est-ce que l'été, quand même, c'est la meilleure période pour faire un break? Yael Mellul, on sait que justement, c'est le moment où on est plus détendu, c'est le moment où on.
Non, mais c'est ça quoi?
C'est
la meilleure période pour tromper l'autre, en fait. Le break, il est fait pour ça.
Oui, mais pourquoi?
C'est juste parce que, encore une fois, pour moi, c'est vraiment un manque de courage parce que celui qui propose, on va dire l'homme.
Et si les deux trompent, voilà. Où est le problème?
Où est le problème? Le problème, c'est qu'il n'y a plus de...
Dans ces cas-là, ils ont dit avec quartier libre pendant tout l'été aussi.
Le couple n'existe pas, en fait. Il n'y a pas de couple.
Si, mais tu peux aussi te rendre compte, certainement,
si
tu vas voir quelqu'un d'autre et tu te dis, finalement, c'est ce que j'avais à la maison est mieux.
Dans ces cas-là, qui partent en vacances au Cap d'Agde, hein, ils vont régler le problème très vite.
Mais quel rapport? Mais ça n'a rien à voir.
Il reviendra pour régler
vite le problème.
C'est pas parce que t'es tout nu sur une plage que.
Je pense qu'il parlait plus que de la plage, en fait.
Ah bon, d'accord, mais je n'avais pas pensé. Je ne connais pas cette ville. Donc voilà, je ne connais pas les habitudes de vie.
Mais non, mais il n'y a pas de bon moment ou pas bon moment pour faire un break.
Alors, c'est pas si les vacances quand même.
Oui, c'est comme quoi? C'est comme à 4-3 dans le premier set?
Non, mais pendant les vacances, par exemple, tu vois, tu fais un break, si t'es une femme et que t'as pas d'enfant, tu t'en profites pour aller passer les vacances avec tes copines et tout, et t'es pas là à te morfondre alors qu'il pleut dans ton appartement.
Tu peux être sollicité par le maître nageur.
Non, mais pourquoi pas?
Mais pour ceux qui veulent faire un break,
alors dans ces cas-là, dis, j'ai envie d'air frais. Et puis tu l'assumes.
Il s'appelle bah évidemment, c'est ça, quoi, aller jusqu'au bout, en fait.
Non, mais voilà. Ceux qui veulent faire un break, bah, en effet, l'été, c'est bien parce qu'on est en dehors de son quotidien. Parce que si c'est. Ce que nous racontait Simon tout à l'heure, c'est que pendant 15 jours, ils ont pris du temps, ils sont allés consulter.
Non, mais ça, c'est un break thérapeutique, ça, ça n'a rien à voir.
Après deux semaines de consultation, ça n'a rien à voir. Si je peux me permettre.
Oui, mais pendant le quotidien, en fait, on est pris par nos activités. On ne peut pas réfléchir vraiment à notre couple. Là, en effet, pourquoi pas pendant 15 jours.
Pendant les vacances, en revanche, avec le prof de tennis, tu as le temps de réfléchir.
Voilà, oui, mais
une introspection.
Comment tu fais pour faire un break effectivement pendant toute l'année, oui. C'est-à-dire qu'en fait tu vis dans le même appartement, c'est, si t'es en couple, donc tu chasses. Non, mais l'un des deux de l'appartement. Mais par définition il devrait pas y avoir de break en fait dans un couple qui marche bien.
Dans l'idéal,
mais tu vois
oui.
bien que ça peut marcher. Voilà, donc bah oui, non, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Là. Je veux dire, à partir du moment où tu dis bon bah faut qu'on fasse un break parce que ça va pas, bah ça va pas en fait. Oui, voilà, c'est ce que je retiens. Mais alors c'est, que c'est mort en fait.
Mais
c'est
imaginez
mort,
voilà. Gaëlle, alors justement parce que c'est mort. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un sur Tinder, premier rendez-vous, il vous dit, écoutez, je suis en break.
Adios. Non, ça va pas.
Non,
quoi.
Si tu veux pas rester avec lui, tu veux juste une courte aventure.
Je ne veux pas de courte aventure. Moi, je veux.
Ah, donc tu vas pas sur Tinder là, dans ce cas.
Bah, j'y vais pas. C'est pour ça que j'y vais pas. Donc,
ah, mais je croyais que tu y allais.
Non, elle y va pas. On essaie de la pousser, mais elle ne veut pas. Faut aller sur Inge. Voilà. Toutes mes copines trouvent sur Inge. Sachez-le. Voilà. Nous avons terminé avec des messages sur le WhatsApp d'Estelle.
Nicolas qui partage l'avis de Yael. Il y a pas de break quand on s'aime, sinon il y a un souci. Damien, faire un break n'est pas pour moi une solution saine de raviver la flamme dans un couple. Il faut pouvoir communiquer, diagnostiquer les problèmes, trouver les solutions à deux. Il n'y a que comme ça qu'un couple se consolidera. Et puis, on a Mickaël qui nous écrit « Break de 6 mois, entièrement libre après 6 ans ». Bah, je sais pas d'où ça en est, il nous laisse juste ça, donc j'espère que tout va bien. Et que tout s'est bien passé, mais je sais pas où en est son break. Et puis on a Willy également.
Oh bah non.
Il y a plusieurs années, je sortais avec une fille, son père ne m'approuvait pas. Et j'ai utilisé l'excuse du break en juillet pour la quitter. Donc méfiance si jamais vous avez votre conjoint qui vous demande un break.
Pourquoi il l'a pas quitté direct? Ouais. Parce que c'est un lâche.
Voilà.
Oh, mais
si, c'est l'arme du lâche.
Mais voilà, raison.
Oh, vous êtes un peu dur en tout cas. Bah, écoutez, nous avons fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi pour savoir ce qu'en pensent nos auditeurs et nos téléspectateurs. Faire un break dans son couple pour raviver la flamme.
64,
c'est une bonne ou mauvaise idée.
Vous pensez que c'est une mauvaise idée pour 76
bien sûr.
Ah oui, évidemment.
Je sais pas ce que vous avez tous les deux là. Yael et Daniel, vous êtes surtendus quoi. Vous êtes un peu calmé. Bah non, c'est elle.
C'est ma faute si Marie-Prune n'est pas venue.
Elle a essayé de venir, mais on n'a pas réussi à la voir. Bah oui, c'est un raté. Et vous voyez, ça existe. Voilà. Bon, dans un instant, nous allons nous détendre grâce à Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur d'Estelle Midi, les meilleurs messages laissés au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, et c'est le moment eh bien, d'écouter Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur d'Estelle Midi, les meilleurs messages laissés au 32-16, et c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi,
le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
On écoute un premier message ?
C'est parti.
C'est parti.
Allez, venez avec nous, monsieur. Ça va,
allez. Lâchez-moi. Oui, bonjour, RMC. Mon mari perd complètement la boule. Il prétend qu'un tennisman français aurait remporté un tournoi ce week-end. N'importe quoi.
Je suis pas fou. Non, pas les petites boules roses.
Allez, tu vas aller te reposer, chérie. Ça va te faire du bien.
N'importe quoi. Un français qui gagne un tournoi de tennis. Mais les gens sont
mais
fous, vraiment.
Mais Arthur Fils qui a gagné Barcelone hier.
Ouais, bah vous aussi, on va vous donner des petites boules roses. Mais ça va pas, la tête. Non, ce n'est pas possible.
Il a battu Rublev.
Ouais, on va avoir un français en deuxième semaine à Roland Garros. Ouais. Vous y êtes.
Ah bah alors là,
ah ouais, on prend les paris.
Ouais.
Allez, c'est parti.
Message suivant.
Bonjour, c'est Gabriel Attal. C'est un moment solennel pour moi. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle 2027 parce qu'il est temps de.
Gabriel ! Ah, Gabriel, tu peux baisser un peu ta musique ? On s'entend pas là ! Qu'est-ce que tu fabriques encore ?
Mais maman !
Tu fais encore des vidéos TikTok là ? Tu crois vraiment que c'est comme ça que tu vas réussir dans la vie ? Allez, coupe-moi ça et viens manger. On passe à table.
Vas-y, relou, maman.
Oh là là. Et Gabriel, le répondeur, c'est pas un jeu, c'est du sérieux. Donc on raccroche. Voilà, merci. Au boulot. Allez, dernier message.
Coucou mes petits poulets, c'est Françoise de Nice. Bon, vous avez vu, Ikea a sorti des sucettes goût viande. Oh, ils sont forts, ces Suédois. Et moi, vous me connaissez, je suis une curieuse. Fallait que je les goûte. Eh ben, c'est super bon. Par contre, on retrouve plus le goût du Suédois que de la viande. Oh, ça m'a rappelé Björn, mon prof de tennis. Allez, Estelle, je vous laisse. Et je vous ai envoyé un paquet de sucettes. Vous allez goûter, vous aussi. Bisous, bisous.
Non, ça va, François.
Personne ne veut goûter ici. Ça va. Non, sucettes goût viande, pas terrible. Estelle, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on se connaît et vous me surprendrez toujours. J'ai appris qu'Estelle avait acheté des places pour aller au concert de Doc Gynéco.
Ah oui, oui.
Voilà. Non, mais c'est bien. Vous, vous êtes contente, Estelle? Alors, vous savez que c'est à la Adidas Arena.
J'ai vu ça après.
Et que la Adidas Arena, c'est Porte de la Chapelle. Voilà.
C'est vrai que j'ai cru que c'était la U Arena. Ouais.
Bon, non, non, non. Ça va être rendez-vous en terre inconnue pour Estelle. Votre gauche, vous pouvez apercevoir la tribu de la colline du crack. Attention, si vous propose une pipe en verre traditionnel, n'y touchez pas, sinon il n'y aura pas d'émission demain. À votre droite, regardez une permanence de la France insoumise. Vite, courez! Ah, ah là là. Non, mais c'est arrêté, bien, Estelle, c'est bien. Doc Gynéco, ça va être super.
Oui, je suis avec ma fille.
Oh, la chance. Bah, allez, on écoute un premier message.
Mais oui.
C'est parti.
Coucou ma puce, c'est maman. Bon, je suis furax là. Alors comme ça, tu vas au concert de Doc Gynéco sans moi. Petite ingrate. Alors ça, pour t'emmener voir Chantal Goya en 88 au Palais des Sports, t'étais bien contente que maman soit là. Mais pour aller bédave dans la fosse au concert de Gynéco, la maman, elle n'existe plus. Alors je te préviens, t'as intérêt à me choper des places et de la Marie-Jeanne. Comme Mérigo voit, clic, clic, boum.
Bah, elle connaît, votre maman. Bah voilà, elle est dans le coup.
Bah oui.
C'est vrai que c'est sympa.
Plus de place.
Ça faut, mais trouvez-lui une place.
Y a
ça fera,
plus
ça
de
fera
place.
Un beau moment, mère-fille. Voilà.
Ah. Oui, bonjour, c'est Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Alors, je récapitule les règles pour accéder aux aides financières pour le carburant. C'est très très simple. Ça concerne les automobilistes contraints d'utiliser leur véhicule à des fins professionnelles, mais uniquement ceux en activité depuis plus de 2 ans et qui vont travailler à plus de 75 km de chez eux. Sauf le mercredi et le vendredi. Aussi, il faut que leur immatriculation soit impaire et qu'ils portent une moustache et aussi qu'ils habitent uniquement en Dordogne depuis 1988. Voilà. Allez, on est sur le coup, on vous lâche pas les Français.
Oula, ouais. Il faut aussi que les gens fassent plus d'1m70 et ne soient pas intolérants au lactose. Voilà.
Mais ça va pas faire beaucoup de monde.
Ça va pas faire beaucoup de monde, non, c'est vrai.
Oui, bonjour Estelle, c'est Yannick. Voilà, à la télé, ils disent qu'il faut faire attention aux arnaques. Et ben moi, je suis très très prudent. Ça fait 3 ans que tous les ans, à la même période, je reçois un mail d'un site louche. Ça s'appelle impôts.gouv. Voilà. Et ils me demandent de déclarer mes revenus pour ensuite me prendre de l'argent sur ce que j'ai gagné. Non, mais mon cul, ouais. Ça sent l'arnaque à plein nez. Et je suis pas con, hein. 3 ans que je réponds pas. Ah, je vous laisse, c'est les huissiers.
Il est malin, notre filou. Un message d'un auditeur anonyme.
Oui, bonjour la team. Voilà, j'ai choisi de témoigner anonymement parce que j'ai peur. Peur qu'à cause de ce que je vais dire sur votre antenne, je sois victime de représailles et qu'on essaye d'attenter à mes jours. Mais voilà, je n'ai pas peur, j'y vais. La nouvelle chanson de Céline Dion, c'est une belle merde. Voilà, merci. Ah, ça fait du bien.
Oh, le blasphème! On ne critique jamais Céline Dion! Ouais, c'est un, je suis un peu d'accord aussi, mais c'est pas. Ouais, ouais. Vous savez, on ne critique pas Céline Dion. C'est comme ici, on n'a pas le droit de critiquer Estelle Denis. Enfin, sauf Benjamin Hamard, qui avant l'émission me disait: je suis sûr qu'elle va nous faire bosser le 1er mai, cette garce! Alors, ça se passe comment le 1er mai, Estelle?
Il est payé
double. Ah, bah, il va venir alors. Du coup,
Voilà, le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt, à écouter, à réécouter, à savourer en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de télé. Chargement, place au Tour de France maintenant, 12e étape. On va retrouver tout de suite Christophe Cessieux, l'intégral Tour. Bonjour Christophe.
Bonjour Estelle.
179 km entre le circuit de Magny-Cours et Chalon, étape de plaine, étape de sieste, hein, Christophe.
Oui, on peut faire la sieste ou on peut se réveiller juste avant le final quand même. Bon, ce sera dans longtemps. 17h, j'espère que la sieste sera terminée d'ici là. Oui, c'est la dernière étape de plaine, la dernière étape réservée a priori aux sprinteurs, parce qu'ensuite, eh bien, évidemment, on va rentrer dans le sérieux, dans le très sérieux, avec les étapes de montagne qui vont arriver dès ce week-end et toute la semaine prochaine. Donc c'est la dernière occasion pour les Team Merlier, les Philipsen ou encore Warren Scholl qui s'est imposé hier, d'essayer de viser la victoire. Mais pour l'instant, les baroudeurs ne s'en laissent pas compter, ils tentent de prendre l'échappée. Mais ça ferraille, ça bataille depuis un peu plus de 15 km et pour l'instant, aucune échappée n'a réussi à prendre le large.
Oui, parce qu'il y a quand même trois côtes de quatrième catégorie, quoi, là, des petites bosses. Donc c'est plutôt favorable. Mais moi, j'ai envie de la victoire d'un baroudeur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà.
Bah oui,
donc,
Jackie Durand.
Là, j'ai misé sur personne, mais on a envie de voir ça. Voilà, je sais pas. Bah oui, sinon, ça va être Tom Merlière. Donc, on a envie d'un petit français quand même. Il n'y a toujours pas.
Il n'a pas gagné.
Oui, je sais, mais bon. D'accord, mais bon. Voilà, on a envie d'un français quand même.
Oui, bah oui, il serait temps quand même. On est.
Bah oui, ce que je veux dire.
On a dépassé la mi-tour. Pour l'instant, aucune victoire française. Mais ouais, on espère peut-être un baroudeur. Et puis autrement, il faudra attendre les étapes de montagne. Pourquoi pas échapper de Lenny Martinez ou Paul Sexas qui nous régale quand même depuis le début de ce Tour de France.
Exactement.
Yachar devrait pas en
laisser beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Cessieux. L'intégral Tour, c'est tout de suite. On se retrouve demain midi, 14h dans Estelle Midi. Salut à tous.